Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le grand retour de ce podcast Soirée Disco, quel nom extraordinaire quand même. Je suis toujours accompagné de mon cher camarade Tinky. Salut Tinky, ça va ?
Hello Benjamin, ça va ? Et toi ? Je suis très content de revenir, ça faisait longtemps.
Ouais, ça fait plaisir. Ça fait depuis février 2022, je crois, le dernier, un truc de fou. Donc, il y a eu une grosse pause du podcast pour plein de raisons différentes. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais gros, je suis, pour celles et ceux qui le savent, je suis flonflon, je suis streamer. Et je me suis un peu concentré sur l'année 2022 sur le stream, et parce que voilà, mettre en place un podcast, c'était un peu long. Et là, maintenant que je suis plus à l'aise avec mon emploi du temps, je me dis que ça peut être un peu plus cool de relancer les podcasts, parce que c'était un super exercice. En fait, c'est marrant, mais ce qui m'a donné envie, c'est que ce podcast est un peu lié évidemment à mon activité sur Twitch. Et on a eu la même idée en même temps, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte sur mon Discord que plein de gens parler du podcast en bien, et je me suis rendu compte qu'en fait il était assez écouté. Même juste les trois épisodes qui sont sortis ont été vachement écoutés, et on s'est dit en fait quasiment en même temps, vas-y gars, on le reprend en mode une fois par mois, et ça sera trop cool. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et ça me fait trop plaisir. Et justement, aujourd'hui on va parler d'un artiste qui fait l'actualité de cet été 2023 avec la sortie d'un nouvel album, et il s'agit de cette personne. Travis motherfucking Scott, the greatest live performer on this planet. He can vibe with every single person that's in the club. Take care of him, bro. He was the first person to let me know that I wasn't alone. He saved my life. Et donc oui, il s'agit du rappeur Travis Scott. Comme d'habitude, on va d'abord donner notre impression et notre vécu avec l'artiste. Toi, Tinky, Travis Scott, t'en penses quoi ? C'est quoi dans ta vie ? Enfin voilà, dis-nous un petit peu.
C'est toujours un peu compliqué de situer un gros artiste comme ça, parce qu'il est tellement présent dans l'espace médiatique que finalement, on est un peu tous touchés par lui. Moi, je vais pas faire l'ancien, je crois que je le découvre avec son deuxième album. L'album Birds Sing. Attends, je vais l'avoir. Birds Sing in the.
McKnight Bird, Sing. Birds in the Trap Sing McKnight, c'est ça?
Oh oui, bon, il fait chier avec son nom. Bref, je le découvre, je crois, avec ça et le single avec Young Thug.
Yes.
Depuis, je suis sa carrière, ce qu'il a fait avant et tout. Il y a des morceaux de lui que j'adore, je trouve que c'est un super artiste qui a énormément apporté à la musique. On en parlera de toute manière. Ouais. Même avant d'avoir été musicien, il a apporté beaucoup au rap. Et globalement, aujourd'hui, je dirais que je suis pas spécialement fan de Travis Scott. Enfin, c'est pas un de mes artistes préférés.
Ah ouais, c'est marrant parce que par rapport, parce qu'on se connaît évidemment. Ah, j'aurais dit que Travis Scott aurait pu être un mec que tu kiffes, quoi, tu vois.
Je le kiffe, mais j'ai beaucoup de retenue pour plusieurs points que j'aborderai dans le podcast, okay. Je pense. Mais globalement, je sais que tous mes potes sont fanatiques. Et que moi, je suis beaucoup plus détaché sur le personnage, sur sa musique.
Yes.
Enfin, j'ai beaucoup plus de retenue, quoi. Et toi, qu'en est-il ?
Moi, c'est, je le découvre. Alors, moi, je vais faire l'ancien. Non, je vais pas faire l'ancien. En vrai, je l'ai découvert pendant la hype Rodeo. Voilà, tout simplement. Donc, on est en 2015. Ça commence à faire un petit peu. Bientôt 10 ans. Allez, bam. Ça, c'est baf dans la gueule, ça. En fait, je commençais à entendre vachement parler de ce rappeur. Je sais plus d'où. Mais il commençait à avoir une grosse hype parce que ce rappeur allait sortir son premier album, et il y avait un truc déjà mystique à l'époque où la date de sortie avait fuité, mais c'était pas la bonne, puis ça a été repoussé parce que le gars était exigeant. Évidemment, très excitant. Pour moi, en plus on était vraiment dans la vibe à ce moment-là où moi j'étais un fanatique de Kanye West, qui avait sorti 2 ans auparavant Yeezus. Et du coup, on me dit, ce gars-là, en fait, c'est un peu le petit protégé de Kanye West. C'est un génie, vous allez voir, c'est un gros fou. Je connaissais rien de la personne, tu vois. Et donc, évidemment, quand Rodeo sort avec cette pochette hyper particulière, où en gros, c'est lui en Barbie ou je sais pas quoi, tu vois. Un action man, voilà, très étrange. Déjà une ambiance bizarre, et je me mets à écouter le premier morceau de l'album, ça s'appelle Pornographie. Je fais waouh, déjà le gars nous met dans une ambiance, tu vois. Et du coup, je me dis, je veux découvrir ce gars, quoi. Je veux savoir qui c'est, je veux. Rodeo, grosse claque. Voilà, dès le début, je prends une grosse claque. Les sonorités, tout me parle tout de suite. Mais parce qu'on est vraiment dans cette vibe où tu sais, j'avais besoin de ma dose un peu rap étrange post-Isus, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai kiffé. Et en fait, j'avoue que Travis Scott, c'est pas mon artiste préféré, mais ça fait partie des artistes que j'adore retrouver. Tu sais, dès qu'il sort un album, j'adore. Tu vois,
Ouais, c'est toujours un rendez-vous. Bah, on l'a vu de toute façon avec le dernier.
C'est ça.
Il fait date, quoi.
Ouais, tu vois, c'est un peu comme, c'est un peu comme le Beaujolais. Tu vois, t'es content de le retrouver.
Travis Scott est le Beaujolais du rap américain.
C'est ça. T'es content de le retrouver de temps en temps, tu vois. Donc voilà, mon rapport à Travis Scott.
Donc juste avant de présenter Rodeo, on s'est dit que ça serait bien de refaire un petit peu le topo de qui est Travis Scott, parce qu'aujourd'hui on le connaît, c'est une superstar, on le voit sur les menus McDo, il vend des Air Max chez Nike, voilà, il te fait vendre, c'est le roi des concerts, tout le monde se jette, parfois même pour le meilleur et pour le pire. Mais avant d'être une immense star, Travis Scott, c'est un enfant qui grandit dans le Texas, à Houston. Donc pour ceux qui ne le savent pas forcément, Houston c'est une terre un peu sacrée du rap aux US, parce que c'est de là-bas que vient par exemple le groupe UGK, mais qu'aussi a été créé le Shop and Screwed. Je sais pas si tu vois ce que c'est, enfin toi je pense tu vois, c'est quand on ralentit la musique et qu'on fait des voix qui sont assez graves, assez horrifiques. Donc voilà, c'est une région qui a été bercée vers un certain type de rap.
L'époque cas... pré-TikTok, quoi, c'est vraiment le Shop and Screw aujourd'hui, c'est vraiment...
Ouais, c'est vrai que sur TikTok, c'est un peu ça, voilà, ce qu'on appelle un peu le Dirty South. Ouais. Donc voilà, il grandit dans cet environnement-là. Et très très tôt, Jacques, vu que c'est son nom, on lui offre de quoi faire des productions de rap. Donc voilà, il devient petit à petit intéressé par la musique, la production. Et c'est, on va dire, vers le lycée qu'il commence à se mettre au rap. Il a un premier groupe, je crois que ça s'appelle The Graduates ou un truc comme ça, avec un de ses potes, où lui il fait les prods, il rappe un peu. C'est pas une dinguerie, voilà. Il met ça sur MySpace, mais bon, il perce pas trop. Sauf que Travis, il est archi dedans, quoi, dans tout ce qui est prod et tout, et il se dit, bon, je vais tenter ma chance, pourquoi pas. Donc, quand il rentre à la fac, il décide de drop out, donc d'arrêter d'y aller, pour se concentrer uniquement sur sa musique. Il va subir un premier échec à New York où il va pas trouver de preneurs, enfin de gens intéressés par ce qu'il fait. Ses parents qui vont découvrir qu'il a arrêté les études, forcément, ils vont pas trop apprécier. Donc ils vont couper les vivres et il va aller tenter une seconde chance, cette fois-ci à Los Angeles, où il va écumer les studios, dormir sur des canapés, vivre une vie un peu de vagabond. Et c'est en 2010, 2011, je ne sais plus la date précise, qu'il se fait cette fois-ci signer par un rappeur bien connu, T.I., qui le prend sur son label à l'époque, parce qu'il croit dans sa musique, et en même temps, bah, tu l'as rappelé, c'est un peu le moment où il se fait spot après avoir mis une mixtape sur internet, il se fait spot par Kanye. Qui est intéressé lui par contre plus par l'aspect production de Travis Scott et qui l'invite à venir participer à la grande fête parisienne qui est la production de l'album Isus, qui est en fait le premier fait d'armes de Travis. Après il va grandir de manière très étroite avec Kanye, puisqu'il fera aussi partie de l'expérience Cruel Summer avec Good Music, qui était un projet en fait pour lancer le label. Et oui, il a été producteur dessus. Et donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet en fait du label de Kanye sur lequel il y avait tous ces artistes signés de l'époque. Il y a eu beaucoup, en fait ça a beaucoup fait parler de lui d'ailleurs. En fait tout un été, je crois que c'était toutes les semaines, il y avait un son qui sortait, c'est ça?
Ouais.
Si je ne dis pas de bêtises.
Je me souviens parce que je sais qu'il y avait eu un délire avant sur les vendredis avant qu'ils sortent My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Puis après je crois que Cruel Summer il avait voulu reprendre un peu la même forme en sortant des sons de temps en temps. Et je me souviens très bien du son avec... En plus, oui, maintenant que tu le rappelles, le son avec Travis Scott, c'est le son Sin City. Je m'en souviens très bien que les gens avaient dit « Oh, c'est qui ce gars, ce dingue-là sur ce morceau et tout ?» Mais ouais, carrément, j'avais complètement zappé, mec. Tu me le rappelles, vraiment.
Ouais, bah c'est un peu ce qui se passe avant Rodeo, parce qu'en fait, malheureusement, Travis Scott, il y a une grosse partie de sa discographie qui n'est pas disponible sur les plateformes, puisque avant, bon, il y a eu... Ça, on peut trouver les Cruel Summer, mais sa mixtape All Pharaoh, en fait, qui est son premier début dans le rap américain, sur lequel on retrouve déjà par exemple Justin Vernon, on retrouve Meek Mill, enfin, en tout cas plein de gens avec qui il collaborera plus tard, elle est pas dispo, on peut la retrouver sur YouTube. Et surtout après il y a une mixtape qui sort en 2013, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Days Before Rodeo, Non, c'est 2014, pardon. Et en gros, c'est le premier gros projet de Travis Scott. En tout cas, c'est celui avec lequel il va faire du bruit. Sur lequel, juste hein, comme ça, on retrouve Migos, The 1975, Big Sheen, Young Thug. Donc vraiment du beau monde. Et en fait, c'est l'album, une espèce de mixtape qui précède le premier album de Travis Scott, qui sera Rodeo, et qui sortira cette fois-ci en 2015. Donc après Yeezus, et après une période un petit peu de préparation dans laquelle il a pu développer son univers musical, sa hype, et faire parler de lui auprès des grands, parce qu'on va en parler, mais le premier album de Travis Scott, c'est pas vraiment un album de rookie quand tu vois tous les gens qui sont crédités.
Ah oui. En fait, il crée... c'est marrant, c'est quelqu'un qui a toujours pensé sa DA depuis le début, quoi. C'est...
Ouais.
Et ça, on va s'en rendre compte, mais le fait même d'appeler sa mixtape Days Before Rodeo pour sortir l'album, où son premier album derrière va s'appeler Rodeo, c'est déjà pensé, c'est déjà calibré, c'est déjà où il va. C'est très léché, quoi. Mais c'est léché, mais jusqu'au bout, hein, jusqu'à aujourd'hui. Non,
c'est très marketé.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais, complètement, complètement. Et justement, tu parlais de Rodeo, ce que je te propose, c'est qu'on démarre sans plus tarder avec cet album. On parlera pas, je le dis tout de suite, on parlera pas des deux premières mixtapes. Parce que voilà, bon, même si je crois que même All Pharaoh a été pensé comme un album avant d'être une mixtape balancée sur internet, on va pas en parler, on va vraiment parler des albums studio, de ce que Travis Scott parle lui-même comme album studio, c'est-à-dire Rodeo, premier album, c'est parti. Don't you open up that window? Don't you let out that antidote? Et je vais te relaisser la parole, du coup, Tinky, puisqu'on s'est partagé les albums comme on le fait, comme on l'a fait jusque-là. On va parler, en gros, de 5 projets. On va parler de Rodeo, on va parler de Birds in the Trap, Sing McKnight. On va parler du projet avec Quavo, parce que ça reste quand même un album de Travis Scott collaboratif. On va parler d'Astroworld, évidemment. Et puis, du coup, du dernier Utopia. Là, on est à chaud, là. On est à chaud.
Je suis en plein dedans.
Et donc, c'est toi qui as la tâche de parler de Rodeo, mon cher Tinky. Du coup, en fait, c'est parfait parce que je te laisse juste continuer un peu ce que tu racontais. Voilà, tu parlais de Days Before Rodeo et donc Into Rodeo. Vas-y, let's go.
Yep. Du coup, Rodeo, il sort sur le label Ground Hustle Records, donc de T.I., qui est l'artiste qui le produit. L'album en fait il a toutes les allures d'un blockbuster en fait, pour être honnête, parce qu'en fait quand tu regardes la production tu te dis c'est pas possible qu'un mec qui sorte son premier disque il ait toutes ces personnes aujourd'hui.
Michelangelo, Metro Boomin, Mike Dean, Pharrell Williams, tu fais ouais tu pleures un peu hein.
C'est ça, au niveau des features on trouve Quavo, des Migos, Future, 2 Chainz, Juicy J, de la 3-6 Mafia, Casey Hill, The Weeknd, Swae, Chief Keef, Kanye West, Justin Bieber, Young Thug et Tori Moy. Il y a Schoolboy Q dans les bonus tracks aussi. Donc bon, ça c'est rien que pour les feats. Et après, bon, pour la production, je crois qu'il y a Pharrell, il y a Mike Dean, bon, toutes les superstars quoi.
Oui, c'est ça. Et puis très Kanye, c'est-à-dire que pour chaque morceau, ouais, t'as 20 producteurs quoi. C'est vraiment.
Exactement.
C'est vraiment ce truc. Enfin, écriteur, n'importe quoi. Écrivain et producteur, les deux, c'est vraiment une liste sans fond quoi.
Ouais, après, je pense. Ça n'a jamais été dit, mais il y a beaucoup de productions qui doivent être des chutes de Yeezus, parce qu'on retrouve énormément de gens crédités sur les productions qui sont les gens ayant travaillé sur Yeezus. Par exemple, Gotchstein, tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu un peu de récupération, dont le feat avec Kanye West qui a vraiment des allures de Kanye Yeezus qui gueule comme pas possible. Donc, ça, c'était un petit peu pour le tour d'horizon cet album. Globalement, c'est pensé comme une espèce de grande fête, comme un peu tous les albums de Travis Scott jusqu'à maintenant. Lui-même, il le décrit comme un carnaval. Voilà. Un espèce d'immense carnaval. Au niveau de l'ambiance, on va retrouver ce qu'il avait entrepris sur les albums précédents, c'est-à-dire des productions très trap, très sombres, avec néanmoins beaucoup de références un peu pointues à des choses qui peuvent être électroniques parfois, on le voit dans la production. Et Travis Scott, c'est tout de suite cet univers de rap où clairement t'es pas là pour les flows, t'es pas là pour les lyrics, t'es là pour la manière dont il va utiliser l'autotune et se poser sur l'instrumental. Donc c'est très mélodieux, avec toujours des adlibs qui viennent parsemer son rap très énergique. En fait, on est plus dans une espèce d'énergie que du rap à proprement parler. Et c'est ça d'ailleurs qui fait que en concert ça marche autant. C'est que c'est un mec qui arrive à allier mélodie, flow un peu enragé et autotune qui va vers des aigus astronomiques.
C'est ça parce qu'il n'est pas considéré, parce que tu parlais du fait qu'au début de sa carrière il n'était pas considéré comme un très bon rappeur. Même encore aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un bon rappeur. On est d'accord. J'ai pas la
je dirais. Non, du tout. Je dirais que c'est plutôt un mec qui est... Enfin, il rappe, hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un encenser sa technique, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment le bon entertainer, tu vois. C'est vraiment... Il a tout compris, justement, par... En fait, il a fait de sa... Alors, il a fait de sa faiblesse une force. Tu vois, c'est vraiment... Non, mais c'est ça. C'est... Je pense qu'il savait qu'il était pas bon en rap, qu'il se démerdait, il pouvait faire le minimum. Mais du coup, il s'est dit, bah, comment je vais pallier ça? C'est juste son esprit... génial de synthèse, de savoir un, bien s'entourer, deux, d'avoir un sens aigu des tendances du moment et voire de même prévoir les tendances que ce soit musical, graphique. Je trouve que c'est vraiment, c'est en ça que je trouve que dès Rodeo, on voit déjà ça en fait, même avant et avec Rodeo, c'est un peu déjà la consécration avec ce premier album de... On se rend compte de ça, enfin je sais pas ce que tu en penses. Yep. Mais...
Bah, c'est, en fait, c'est pour moi les bases de ce qu'il créera après, qu'on retrouvera bah, jusqu'à Astro War, enfin, après, c'est cette espèce de d'univers un peu, moi je trouve, démoniaque, tu vois. C'est une espèce de rap, et surtout, je trouve, surtout dans Rodeo, c'est un album qui est très sombre, un peu crasseux, tu vois. Où t'as un truc où, quand tu l'écoutes, t'sais, c'est comme un petit roller coaster d'horreur, tu vois. Ouais. Tout est, les prods, elles sont un peu horrifiques, elles sont oppressantes. Les flows aussi t'oppressent. Les invités, ils sont pas forcément dans un délire très joyeux. Genre Kanye sur Peace and Young Grave, il est atroce.
Ah ouais, mais
dans le bon sens du terme. Mais par exemple, il est atroce. Même The Weeknd, tu vois, qui a un côté très angélique. Là, il est, tu sais, le The Weeknd démoniaque de la trilogie House of Balloons. Enfin, t'as un truc qui est très oppressant sur cet album et qui, du coup, je trouve est très réussi. C'est ce côté, voilà, c'est un roller coaster d'horreur, quoi. Je sais pas toi ce que tu penses de
l'album. Ah bah moi complètement, moi en fait ça décrit exactement Rodeo, quoi. C'est le même le titre de l'album est pas choisi au hasard. C'est que moi quand j'ai découvert du coup Travis Scott avec ce disque, c'est vraiment cette impression que ça m'a fait, c'est je me suis pris un rodeo, quoi. Un rodeo d'émotions, un rodeo de paroles, de production, de tout, en fait. Je me suis fait secouer dans tous les sens. Je m'y attendais pas du tout. En plus, moi, j'étais pas à la base dans un délire, tu sais, les trucs horrifiques déjà de base, les univers horrifiques dans l'histoire de la culture et de la pop culture. Ça m'a jamais attiré, notamment le cinéma, etc. Ça m'a jamais fait rêver.
T'aimes pas la Three Six Mafia dans le rap, par exemple?
Ouais, tu vois, ça m'a à la base, tu vois, ce genre de son, tu vois, ça m'avait jamais attiré. Et j'avoue que, désolé d'en reparler, mais tu vois, genre, Isus a été tellement une claque qui m'a un peu amené vers ces trucs-là, tu vois. Peut-être parce que bah, j'avais besoin d'une clé et que Kanye West l'a été, tu vois, à ce moment-là. Oui. Voilà. Alors là, je me suis rendu compte que Rodeo me parlait à 100% à ce moment-là, en 2015, quand je l'ai écouté. J'ai un attachement particulier à ce disque, du coup, parce que vraiment, je me suis pris une claque dans, genre, moi, ce que ça m'a fait en écoutant ce disque, c'est... Ah, je ne suis pas. Je suis changeant dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, ouais. J'ai pas aimé ça. Ok, je n'aimais pas forcément, comme tu dis, Three Six Mafia, etc. Mais je me rends compte qu'en fait, que mes goûts évoluent. Et que, ouais, en fait, finalement, le milieu horrifique, peut-être que je l'aime pas au cinéma. Mais peut-être que je l'aime quand il y a une vraie ambiance sonore, musicale. Et du coup, je me suis rendu compte, par exemple, après cet album, vraie anecdote, je me suis mis à écouter des fois des bandes originales de films d'horreur. En me rendant compte qu'il y avait un vrai, que c'était un vrai exercice de style et que c'était assez fou, tu vois. Il y avait même du travail assez dingue sur certaines bandes originales. Et je suis honnête, Rodeo a fait partie d'une certaine initiation musicale pour moi, réellement, tu vois.
Même sur l'autotune, je trouve que Rodeo, bon, il sort en 2015, il y a déjà de l'autotune dans le rap, tu vois. Mais je trouve que Travis Scott, il la pousse à une utilisation. Il fait partie des meilleurs, tu vois, genre avec PNL en France. Il a réussi à tirer le meilleur, en fait, du logiciel et de ce qu'on pouvait en faire, quoi.
Ouais, il a tout compris pour moi, ouais, à ce moment-là. Et je pense que son amitié, en tout cas, son travail, tu parlais de Bon Iver dès le début, dès les premières mixtapes, elle n'est pas par hasard, parce que Bon Iver fait partie aussi de ces artistes, pas dans le milieu du rap, mais plus dans le milieu de la pop, à avoir complètement compris l'utilisation d'un logiciel et d'un truc un peu mal vu et de le ramener dans son propre style et se l'approprier. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça que T.I. a complètement kiffé Travis Scott aussi. Je pense que...
Oui, parce que T.I. on n'a pas parlé, mais c'est un pionnier de la trap music aux US.
Ouais.
Et c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé l'autotune à une époque, notamment pour ses singles, où il en a pas mal abusé, quoi.
Il était complètement... Même d'ailleurs, T.I., moi, j'en ai entendu parler au début, comme quoi c'était... Tout le monde se foutait de sa gueule parce que c'était le gars de l'autotune, quoi. D'ailleurs, je crois... Jay-Z, son titre...
Ah, tu n'avais pas avec T-Pain?
Ah, pardon, T-Pain, pardon. Ah, j'ai confondu.
T'inquiète, pas de souci. Mais T.I., ouais, c'était plus ce rap à la Gucci Mane.
Oui, je vois,
Atlanta,
pardon,
en fait, tu vois.
J'ai confondu avec T-Pain, effectivement, dont on se foutait la gueule. Mais arrêtez de mettre des T partout, là.
T-Pain, oui, effectivement, qui a collaboré avec Kanye sur l'album Graduation pour le titre Good Life. Mais d'ailleurs, en parlant de Kanye, je pense que sur cet album, il faut dire quand même quelque chose, c'est... Tu sens l'ombre de Kanye planer sur tous les tracks. Et d'ailleurs, sur Death Before Rodeo, c'est encore plus criant. Tu sens que son rappeur préféré, bon, il dit que c'est Kid Cudi, mais clairement celui qui l'a plus influencé, c'est Kanye West. Genre, je sens du Jesus partout, je sens du My Beautiful Dark Twisted Fantasy dans les ambiances. Je sens beaucoup de Graduation dans les trucs électroniques.
De toute façon, on peut le dire dès maintenant. Pour moi, Travis Scott, c'est un gars qui travaille avec la main de Kanye West sur son épaule constamment. Enfin, je veux dire, même encore aujourd'hui, on le dit dès maintenant, mais moi, c'est ce que tu es en train de dire, c'est quelque chose qui va revenir sur quasi l'intégralité des albums dont on va parler aujourd'hui. Hein.
Mais c'est un enfant de Kanye, genre, il n'y a pas photo, quoi. C'est un pur produit Kanye West, et je pense que tu vois, sur tous les albums qu'il a sortis, ça paraît novateur, mais en fait, c'est novateur parce que d'abord, Kanye l'a sorti de son côté, quoi.
Ouais, complètement, ouais. Complètement. Bah, donc, tu parlais de la liste des producteurs, et pas par hasard, quoi. Ça, c'est...
Même sur Astroworld, qui est une espèce de grande fête, Life of Pablo sort avant. Et Life of Pablo est encore une plus grande fête, à mon sens, quoi. Mais après, c'est très personnel. Donc, je pense que tu vois, là-dessus, il a un peu surévalué Travis Scott. Et c'est une des raisons qui font que j'ai des réserves sur l'artiste en tant que tel. Mais quand même, Rodeo, c'est. C'est un sacré album, quoi.
Ouais, c'est un très bon disque. Ouais.
C'est du costaud.
Ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite au deuxième album, le fameux album que t'arrivais pas à avoir le titre.
Je n'ai jamais. Je l'ai envie, mais je l'aime beaucoup.
C'est ça. Et on passe à Birds in the Trap Sing McKnight. C'est parti. Yeah. I get those goosebumps every time, you come around, Et donc un deuxième album qui sort littéralement un an après Rodeo. Vraiment, c'est très rapide. J'ai un peu un souvenir comme ça où à l'époque... c'est pas qu'il nous avait pris de court le Travis, mais tout le monde était très étonné qu'un deuxième album arrive aussi vite. Ça a été très vite teasé en fait. Son album Rodeo sort en septembre 2015. Dès début de l'année 2016, Travis Scott fait la publicité, enfin dit clairement que voilà, le titre de mon nouvel album ce sera Birds in the Trap Sing McKnight. Il est déjà en préparation, si ce n'est même qu'il est probablement déjà quasiment terminé. Je suis actuellement en tournée, mais mon album est prêt. Mon album s'appelle comme ça parce que ça parle de tous mes potes, justement. Tu parlais de Missouri, etc. J'ai envie de parler, en fait, de cette vie-là. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est pour lui un album social. Enfin, vraiment, une critique sociale. Je trouve ça assez fou de prendre position là-dessus à ce moment-là, dès le deuxième album. Il en a rien à foutre, hein, pour moi, Travis Scott. Moi, ça m'a donné cette impression quand il y a eu des teasers autour de ce deuxième disque, parce que très vite, moi, il m'a paru intéressant, cet artiste. Mais c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, je l'ai trouvé assez engagé sur son discours, notamment sur la misère qui existe, le fait que, en fait, des fois, tu es prisonnier d'un système et que c'est très dur de t'en sortir. Et je trouve ça hyper... Enfin, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Après, sur l'album, qu'est-ce que je peux en dire? De souvenir, il avait un peu, j'ai jamais trop compris parce qu'il avait teasé des morceaux Notamment, il y a un morceau, je crois, avec. C'est Quavo qui est dessus ? Non, attends, c'est le morceau avec Young Thug, Pick Up the Phone, était sorti bien avant, de souvenir.
Oui, c'était. En fait, c'est le premier single, ouais, c'est qui ça. Sort, je crois, de l'album.
C'est ça, en fait, il y a eu une preview très tôt dans l'année 2016, et après, il a été mis en ligne, en fait, ce morceau très tôt sur SoundCloud à l'époque. Il a été vite retiré parce que, bon, je sais pas, après, faut peut-être pas le vendre. C'est peut-être trop tôt, hein, d'ailleurs, pour teaser un disque. Et voilà, en gros, cet album, déjà beaucoup de mystères autour de ce disque. On se dit, attends, un album aussi rapidement. Et très vite, les premiers featuring et les premières fuites autour de ce disque sont balancés. On sait qu'il va y avoir notamment quand même André 3000 sur le disque.
De Outkast, ouais.
De Outkast. Son rappeur préféré et son poteau Kid Cudi, quand même, 20 Watt Savage. On annonce déjà Kendrick Lamar à l'époque, et déjà en 2016 qui commence à être quelqu'un, quand même. Ouais. Young Thug aussi à nouveau. Ah oui, c'est parce que le morceau Pick Up the Phone, il y a Quavo aussi de souvenir dessus aussi. The Weeknd qui revient quand même. Et ouais. Au niveau de la prod, pour moi, commence à être annoncé. Et là, moi, je me souviens à l'époque, je commençais un peu à péter, péter mon crâne, comme disent les jeunes. Puisqu'on commence à je me souviens qu'il y avait le producteur de musique électronique Cashmere Cat à l'époque qui dit j'ai travaillé sur le deuxième album de Travis Scott. D'un coup, on a un certain aussi James Black de souvenir qui a travaillé dessus aussi, qui commence à dire oui, j'ai un peu filé un coup de main dessus. Et en fait, moi, je commence à trouver ça extrêmement excitant parce que c'est tous les gars que moi je suis aussi, tu sais, hors rap, qui travaillent avec un rappeur. Et je me dis oulala, lui il a compris des trucs, tu vois. Genre, je me dis Travis Scott, il a compris. Il a compris des trucs, il a compris que le futur de la musique, c'est du métissage plus, tu vois. Genre, il faut faire péter les barrières entre l'underground, le mainstream, la musique électronique, le rap.
Ouais.
Et là, moi, je commence à trouver ça extrêmement intéressant. Et il balance, je crois que c'était Goosebump, le premier single ou après Pick Up the Phone.
Je sais pas si c'est un single. Si, je crois que c'est le troisième.
Ouais.
Parce que je crois que le premier single, c'est avec The Weeknd, si je dis pas de bêtises.
Ah, c'était Wonderful, c'est ça. C'était Wonderful.
C'est ça. Ouais, Goosebump, c'est un single qui a jamais été clippé d'ailleurs.
Ouais.
On a eu droit à un horrible remix, je crois, l'été dernier, qui était atroce. Par contre,
donc, comme
je me souviens. Souviens.
Oh, ah oui, on se régale, bien sûr.
Ah oui, on s'est régalé. Mais c'est incroyable, Goosebump. Quel morceau. Je crois que c'est son deuxième plus gros hit.
Ouais. Et Goosebump, je me prends une putain de claque à l'époque. Hein. Vraiment, c'était une dinguerie. Je me souviens qu'il y avait eu des premiers teasers un peu. Et quand l'album sort, c'était le morceau qui ressortait sur les réseaux sociaux. Et je me souviens que c'est la première fois où, quand un album sort, j'écoute même pas l'album, je me jette sur un morceau d'abord, tu sais, puisque tout le monde parlait de ce morceau, Goosebumps, et du coup, je me souviens que j'ai d'abord écouté le morceau, et après, j'ai repris l'écoute de l'album du début, tellement et je me suis pris une claque, j'ai dit, oh, c'est quoi ce
morceau ? Moi, ça m'a fait ça sur Pick Up the Phone, le morceau de ma Matrix, il est incroyable, et il a même été plagié de nombreuses fois par d'autres artistes, il est incroyable. Goosebumps, c'est... Enfin, c'est l'atmosphère, le couplet de Kendrick aussi, c'est trop trop bien.
Mais il y a une... Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment avec ce disque, Bird in the Trap, Sing McKnight, que Travis Scott s'affirme réellement. Tu vois, je trouve que l'album, le premier album Rodeo était encore... c'est comme ça que je l'ai toujours perçu, était encore empêtré, alourdi... de toutes les premières aspirations, de tous les premiers jets, trop attaché à tout un teasing de mixtape qui s'appelle Days Before Rodeo, de Rodeo, trop associé encore, tu vois, à des prods peut-être de Yeezus ou de Kanye West en lui-même, tu vois. Et j'ai l'impression que cet album, c'est vraiment ce que voulait faire Travis Scott, même presque en premier album, tu vois. C'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais c'est...
Il a affirmé son style et il s'est émancipé un petit peu plus de ses aspirations.
Exactement. Et moi, ça m'a toujours donné cette impression, même quand je l'ai écouté pour la première fois l'album, je me suis dit, ah ok, là on commence à parler. Là, je sens que c'est... Je commence à percevoir un peu plus Travis Scott, réellement, tu vois. Et j'ai toujours trouvé ce disque hyper intéressant. C'est mon album préféré, je le dis direct. Hein, je vais pas tourner autour du pot. C'est vraiment mon album préféré de Travis Scott. Et je dis ça, après réécoute de sa discographie. Parce que je t'aurais dit naturellement un autre album qui va arriver
plus
tard.
Tu m'aurais dit Astroworld.
Exactement.
Ouais.
Et avec le recul, je sais pas pourquoi, mais je me suis beaucoup plus refait surprendre par celui-là que par Astroworld. Après, peut-être parce que Astroworld, je l'ai plus que poncé. Mais là, celui-là m'a, je sais pas, m'a re-régalé. Tu vois, j'étais en mode, putain, en fait, il y a des morceaux. Dès le deuxième morceau, le Way Back, là. Oh là là, je suis dedans, le Goosebumps.
For the Late Night, c'est fou aussi.
Ah ouais, enfin, je sais pas, je suis dedans.
Le morceau avec 21, donc 21 Savage, et je pense quasi à son prime, tu vois. Genre,
ouais, ouais.
Ça match vachement bien sur les univers, parce qu'ils sont tous les deux dans un truc très sombre, un peu horrifique.
Ouais, c'est ça.
Donc ça fonctionne de fou tout de suite. Là, je vais te faire une confession, hein, moi, c'est pas mon préféré, parce que je pense que je préfère Rodeo, mais c'est mon deuxième préféré.
Ah ouais,
de Travis Scott, ouais. Je trouve vachement plus abouti, pardon, que Astroworld. Moins forcément bien marketé, parce que voilà, le nom est imprononçable. La pochette est un goût discutable, même si moi je l'aime bien.
Elle est abominable.
Je la trouve stylée, mais bon.
Ah ouais, j'ai toujours trouvé que c'était une pochette. J'ai jamais aimé cette pochette, par contre. J'ai toujours.
Après, Travis Scott a toujours le goût de choisir les mauvaises pochettes sur tous ses projets. Genre, quand tu regardes tous les images alternatives qu'il aurait pu prendre, tu te dis pourquoi t'as choisi celle-ci, frérot ?
Oui.
C'était la pire.
On en parlera d'Utopia, mais clairement, Utopia, il avait teasé une première pochette qui était mille fois meilleure que celle qu'il a finalement choisie.
c'est tout ça pour aller toujours vers un truc un peu très sombre. Bon, bref, en tout cas, genre la DA, clairement, c'était un peu l'ange tombé du ciel. L'ange de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, je pense. On est toujours un peu là-dedans, d'une certaine façon. Cette espèce d'ange démoniaque qui vient te crier à l'autotune tes problèmes. C'est, pour le coup, ça réussite. C'est un peu l'album où je trouve que le personnage de Travis devient une superstar, déjà. Mm. Même si c'est sur Astroworld que c'est la confirmation. Là, il y a un peu ce truc de, voilà, qui je suis. T'as un peu la mystique, comme t'en as parlé, là, qui s'intensifie. Que ce soit les shows de Travis Scott, la partie concert, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais t'as tout ce truc un peu marketé, comme quoi Travis Scott, c'est plus fort que le rock, c'est plus fort que le metal, c'est la plus grande star à avoir sur scène du 21e siècle, avec des shows titanesques et tout.
Qui lui posera des gros soucis, on évoquera très rapidement ça tout à l'heure, mais
c'est ça. Mais ouais, c'est le moment où, moi je te dis, je le découvre sur cet album, donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime beaucoup, à cette époque-là, je suis un peu moins dans le rap, je suis un peu plus dans d'autres trucs, enfin je suis même pas trop dans la musique à cette époque, genre j'ai fait une petite pause, tu vois, je me suis un peu éloigné, je suis plus dans le rap français uniquement, et... ça arrive à me parvenir avec mes oreilles, avec Pick Up the Phone et tous les singles, et je me dis, ouais, ce gars a quand même quelque chose que d'autres n'ont pas, tu vois. Une vision qui après, du coup, va se confirmer quand je vais écouter Rodeo et que je fais le lien, et que je me dis, ok, donc là, il part de là, de ces espèces de trucs très crasseux, pas forcément bien finis, bien fignolés, et sur Burn the Trap Sing Might Night, tu sens que c'est beaucoup plus fignolé, et t'as... En fait, genre pour moi, Astroworld, c'est la version finie de son style. Mais sur cet album-là, t'as le meilleur, en fait.
Oui, c'est ça.
Les meilleures idées, en fait, où tous les refrains sont efficaces. Je trouve pas qu'il y ait de collaboration superficielle. Même si tu peux juger le choix de certains invités, genre Nav, qui est un peu le bas-fond de catalogue du rap US pour moi.
Pardon, ça me fait rire. Pardon, je suis désolé, ça m'a fait rire.
Ah non, c'est un rappeur exécrable, genre je comprends pas qu'il soit arrivé là.
C'est bizarre qu'il soit juste après. En plus, t'as vraiment le morceau avec Kid Cudi, puis d'un coup t'as cet enchaînement avec ce morceau.
Mais ce mec est invité partout, il est chez Drake, Travis Scott, et c'est. Pour le coup, voilà.
On peut saluer quand même la quasi-présence d'artistes sur ce disque, comme Caroline Polachek sur l'interlude.
Ouais, qui est crédité sur un son,
C'est incroyable quand même. C'est
fou. Ouais, surtout en 2016, quoi. Ouais.
Non, mais en fait, c'est vraiment le meilleur de la musique indé. Tu sais, vraiment, toute la musique Pitchfork, c'est vraiment le croisement entre un certain rap et ce qui fait kiffer les blogs musicaux des Pitchfork, les gens qui adorent le magazine Pitchfork, les Kashmir Cat, etc. Les James Black, les Caroline Polachek, ils sont là. Et lui, tu sens que c'est une musique qu'il kiffe aussi, tu vois. En fait,
je trouve que c'est un peu le pendant de, tu vois, Kendrick est un excellent rappeur, extrêmement intellectuel dans le texte, dans la façon de rapper. Travis, c'est plus le rappeur qui va te faire plaisir au niveau des sonorités, tu vois,
oui,
au niveau de ce qu'il apporte. c'est un peu plus c'est plus plaisant pour l'aspect production et le défrichage musical qu'il peut faire sur le croisement entre les genres, qui va vraiment, je pense, amener plus loin sur Astroworld, parce qu'il va y avoir plus de monde et plus de producteurs. Mais là, on se rend compte, ouais, de ça, c'était cette recette un peu le rap expérimental pour Pitchfork. Mais d'ailleurs, je crois que l'album est pas très bien noté sur Pitchfork. Enfin, en général, Travis Scott est pas super bien considéré par la critique.
Ouais. Ah, je me souviens pas du tout. Je me souviens pas du tout de la critique l'aime pas beaucoup. Ça, je le savais. Mais Pitchfork, pour moi, ils adoraient.
Mais parce que je pense qu'il y a ce truc un peu, tu vois, animal, pas fini des fois, un peu instinctif dans la musique de Travis, qui fait que c'est pas forcément tout le temps amené au mieux que ça peut, tu vois, un peu comme les récents albums de Kanye, où il est assez dans ce truc très Isus, très instinctif, rage, la première prise est la bonne, tu vois, ouais. Qui fait que bah, sur un album c'est ok, en revanche quand ton son stagne, c'est moins vraiment excitant. Et c'est,
bon, ouais, 7,2, ouais, c'est pas ouf hein, quand même par rapport à...
Ouais.
À d'autres disques, enfin, un Travis Scott aurait pu gagner. Enfin, typiquement, genre vraiment, un Travis Scott pour Pitchfork, c'est vraiment pour moi 8 quoi. Dans 7,2, c'est pas ouf. Hein. Ça reste une bonne note.
Bah, c'est un 14. Quand j'étais à l'école, j'étais content d'avoir ça. Après, voilà, c'est sûr qu'à l'échelle de Travis, bah, tu te dis que cet album peut être un plus, tu vois. Et surtout que pour moi, pour beaucoup de gens, c'est un artiste qui a fait des classiques. Et quand tu vois ce que la critique en pense, bah. Elle est pas du tout en accord avec ça, quoi.
Ah ouais, c'est elle, on en reparlera, ouais, parce que justement, ouais. Pitchfork, je voulais en reparler vis-à-vis du dernier qui est sorti. On en reparlera en temps et en heure, parce que, ouais,
De classement, on se met d'accord, on le met premier.
Ah oui, on le met premier, ouais, on le met devant en termes de classement, on peut le classer, ouais, Birds in the Trap, See My Snap, et devant Rodeo.
C'est ça, parce que pour ceux qui savent pas forcément, à la fin, on fait un classement un peu définitif de nos albums, enfin, de la discographie pour nous de Travis Scott.
C'est ça. Voilà. On passe au prochain album. Alors le prochain album, eh ben, il s'agit de l'album en commun avec Quavo, Uncho Jack Uncho. C'est parti, let's go. Yeah. 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 I'm running around the beach, so it's not nice. Yeah, mama built the saints. Yeah, counting up the O's, I think. Et c'est à toi que revient la tâche de parler de cet album. Qui, je le dis direct, c'est un album que j'ai quasi découvert en préparant cette émission. Voilà, je le dis, c'est un album qu'à l'époque j'avais écouté, je crois, un ou deux sons. Et je connaissais pas tellement le projet, donc je suis très impatient de t'en entendre parler, ouais, de ce disque.
Ouais, bah du coup, moi je le connaissais, parce que j'avoue que cette époque-là du rap, donc on est en 2017, c'est un peu l'époque où tout le rap US se met à se prendre de passion pour les projets entre rappeurs. Je sais pas, il y a eu une mode, tu vois. Tu sais qu'il y a Drake et Future.
Oui, c'est vrai.
Plus tard, il y aura, bah toujours avec les Migos, il y aura le 21 Savage avec Metro Boomin, où je sais qu'il y a beaucoup de...
Oh putain, il vient ce...
Je crois qu'il y a beaucoup d'offset dessus. Même si l'album est très très bien, mais ouais, c'est plus un album de Metro Boomin et 21.
Le Not All Heroes Wear Cap, c'est ça, je crois.
Ouais, qui est absolument incroyable. Ouais.
Il est très très bien ce disque. Bah, il y a Travis Scott d'ailleurs.
Ouais, dessus. Aussi, bah, ouais. Il y a un peu tout le rap de l'époque. Ouais. Ça pourrait d'ailleurs être un disque affilié un peu Travis, un peu dans les ambiances d'ailleurs. Mais ouais, bref, du coup, cet album sort un peu dans cette période-là, en 2017. Et pour situer un peu, 2017, les Migos, c'est moins gros que ça a pu l'être, mais c'est encore un très gros groupe pour le rap, notamment aux US. Qu'en France, ça a jamais trop marché, Migos.
Mais
aux
ouais,
US, c'est superstar. Ils sont, bah, du coup, maintenant, il y en a un qui est décédé malheureusement, Takeoff, mais ouais, on les voit dans tous les clubs, tous les soirs en showcase. C'est un gros mouvement culturel. En tout cas, c'est un groupe qui a révolutionné.
On peut redire quand même la prise de position. Childish Gambino qui monte sur scène, je crois que c'était pour les Grammy, qui monte sur scène et qui dit. Devant tout le parterre de la musique, Migos is the new Beatles. Enfin, c'est les Beatles de notre génération, genre vraiment.
En fait, ils n'ont jamais été récompensés par la critique et les institutions à la hauteur de ce qu'ils ont pu apporter à la musique. Parce que par exemple, si vous êtes fan de rap et que vous aimez les flows, ce qu'on appelle la triplette flow, bah ça, c'est Migos qui l'ont popularisé. Et Migos, entre 2010 et 2020, C'est une discographie, entre les mixtapes et les albums, il doit y avoir moins de 10 projets, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est titanesque.
Migos, moi j'adore. Non, j'espère qu'un jour on parlera de Migos dans un podcast. On fera un truc assez court, je pense, mais j'ai toujours. Moi je suis fasciné par Migos, je te le dis, ça m'a toujours surfasciné.
Moi j'aime beaucoup le groupe. Après, il y a des hauts, des bas. En individuel, c'est pareil, il y a des choses incroyables comme des choses.
Oui, c'est vrai.
Ouf. Mais c'est trois mecs, enfin, c'est un peu un hasard ce groupe, enfin, même que ce soit ensemble, que ça existait, que ça ait fait ça.
La preuve, ils se sont. Parce qu'il faut le savoir, avant le décès. Avant le décès de c'était Takeoff, hein, c'est ça?
Oui. Ouais, c'est Takeoff qui a été tué après une embrouille, un bowling.
Voilà. Ouais, improbable.
Malheureusement.
Il faut savoir que le groupe était séparé, puisqu'ils s'entendaient pas du tout. Je comprends qu'il y avait des gossips. Moi, les gossips, tu me connais, je les suis jamais, mais en gros, il y a une embrouille en fait entre deux des gars, et en fait du coup le trio s'est séparé à cause de ça.
Ouais, il y avait deux frères et un cousin, je crois des embrouilles de thunes, si je me souviens bien, ou un truc comme ça. Mais
moi je suis pas du tout, ça m'avait juste attristé de voir que l'un de mes trios préférés que j'aimais revoir et retrouver à chaque album, un peu comme Travis Scott, tu vois, l'autre Beaujolais nouveau, tu vois.
C'est plus un Beaujolais, je trouve, les Migos, tu vois.
J'étais triste de les voir se séparer, et j'étais hyper attristé au décès de Takeoff. En tout cas, on parle de Migos parce que justement, dans ce groupe, il y a Quavo, justement, enfin, dans ce
c'est
film,
ça, exactement, Quavo, et donc, qui est un peu le mec le plus connu, je pense, des Migos.
Ouais.
En tout cas, on le retrouve un peu partout. C'est souvent lui qui est en feat un peu avec Offset. Takeoff, c'était malheureusement celui qui était un peu le moins connu. C'était George Harrison, hein, du trio. Pour faire le swing avec les Beatles. Donc, ouais, en tout cas, il sort cet album avec Travis parce qu'ils sont bons potes. Ils ont collaboré de toute façon plein de fois dans leur carrière respective. Donc, il s'appelle Uncho Jack Uncho. Curieux nom. Avec une petite pochette cartoonesque rigolo, qui je pense résume bien l'ambiance de l'album.
Je kiffe bien d'ailleurs cette pochette, tu vois. Moi j'aime bien.
Ouais, elle est cool. Bah, en fait, c'est un album qui est récréatif.
Ouais.
Je trouve que dans la carrière de l'un comme de l'autre, il apporte pas grand chose. Bah, d'ailleurs, c'est toujours un peu le cas, je trouve, des albums collectifs.
Oui.
C'est des bonnes récréations, mais c'est rare qu'il y ait un album entre deux artistes, tu te dis voilà, ça c'est un classique. Non, généralement, c'est. Ils sont mis en studio, ils ont fait une résidence d'une semaine, ils en ont tiré le meilleur. Et t'as un single ou deux, et puis basta, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a toujours le. Soit t'as l'épiphanie, genre le coup de bol, où t'as un morceau qui ressort du projet. Ça avait un peu fait ça avec Drake et Future, je me souviens.
Ouais, le Life is Good, What a Time to Be Alive, je crois qu'il y avait des morceaux qui avaient un peu percé aussi. Ouais,
ouais, et du coup, c'était un peu le coup de bol de bon, c'est cool, on s'est fait plaisir, et puis bon, on a un petit tube, ça remplit les caisses. Tu vois, c'était cool, mais ça, globalement, j'ai jamais été un énorme fan des projets en commun. Je trouve que ça tombe toujours un peu à côté. Enfin, c'est dans le rap, j'entends, en tout cas. Ouais, j'ai jamais été fan.
Ouais, que ce soit les projets de collectif ou de label ou quoi que ce soit, c'est souvent t'as quelques morceaux qui ressortent, des bonnes surprises, mais ouais, c'est jamais les trucs qui sont notables. Pourtant, l'album, il a son petit charme. Je trouve qu'il est très ancré dans son époque. De 2017, c'est-à-dire rap très trap, très Metro Boomin, très Wheezy, tu vois, tu sens qu'on est après Young Thug, un peu après Future, et les Migos et Travis Scott, ils prennent un peu le meilleur de tout ça, ils ajoutent leur tambouille et leurs pattes, mais à aucun moment je ressens que c'est un album très Travis Scott ou très très Migos, tu vois. Je trouve que c'est un peu un truc qui a existé, qui a pris les inspirations du moment. Et qui a fait un truc fun, tu vois. C'est plus.
Je suis d'accord, il y a rien qui ressort vraiment de ce disque, je trouve. Même
je suis incapable de te donner un single où je me dis c'est cool.
De toute façon, ça s'est ressenti en termes de. Je me souviens à l'époque, et puis j'ai revu un peu des critiques de l'époque. Ça s'est ressenti en termes de retour critique, de retour public. Tout le monde s'en est un peu foutu de ce disque quand il est sorti. Les gens en avaient un peu rien à foutre. Pour plein de raisons, je pense. Notamment parce qu'effectivement, il n'y a aucun morceau qui ressort. D'ailleurs, petite anecdote, mais ça se ressent même en termes d'écoute. Sur Spotify, quand on voit le nombre de lectures par morceau, aucun morceau qui dépasse les 140 millions d'écoutes. Bon, je pense qu'il y en a certains qui rêveraient d'avoir 140 millions d'écoutes, mais pour quand on parle d'un projet entre Travis Scott et, comme tu le disais, Quavo, qui est le plus gros rappeur du trio Migos, c'est pauvre, quoi.
En 2017, pour situer l'album, le truc, c'est qu'il y a des meilleurs trucs qui sortent, quoi. T'as Tyler's Creator qui sort Flower Boy, t'as Dame de Kendrick. T'as culture de Migos.
Et
Et moi, j'ai le de Drake, t'as l'album de Jay-Z.
Oui,
enfin,
c'est
ouais,
vrai. Et tu vois, j'ai une théorie. Ouais. J'ai une théorie. C'est les pyramides, non, pas du tout. Non, j'ai une vraie théorie. Je pense qu'en plus, cet album s'est fait complètement bouffer dans justement la galaxie Travis Scott. En fait, je pense pas que ça explique à 100% l'échec de cet album, ou en tout cas le fait que ce soit pas un grand disque. Il faut savoir que l'album qui suit, dont on va parler dans un instant, Astroworld, a été lui aussi teasé très tôt. Et il a été tellement teasé et attendu et attendu et attendu que les gens n'attendaient. En fait, c'est devenu un vrai phénomène d'attente aussi, Travis Scott. Et ouais, ça, il l'a très vite compris. Hein. Et Astroworld est devenu un truc ultra attendu. Et comme l'album, d'ailleurs, Astroworld était à la base annoncé pour 2017, et qu'en 2017, Travis Scott finalement balance ce projet avec Quavo, qui est effectivement juste une récréation de 40 minutes sans éclat, sans grand moment. J'ai l'impression que les gens se sont dit Astroworld, peut-être. Il y a eu un peu ce truc-là à ce moment-là, je me souviens. C'est le souvenir que j'en ai gardé en lisant les médias à l'époque, et puis moi qui regardais un peu de loin tout ça. Je me souviens qu'il y avait déjà ce truc-là de le truc avec Quavo. Bon, en plus, à l'époque, je me souviens que déjà Quavo, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je me souviens que dans les conversations, tout le monde considérait que Quavo était un peu le bon gars qui faisait bien en featuring et tout, mais que c'était le moins bon rappeur des trois dans Migos. Donc en plus, un projet de Quavo, on s'en battait un peu les couilles. mais c'est un peu ça. Et donc là, Travis Scott, Quavo, il s'amuse, mais ouais, c'est pas dingo, quoi.
Je pense que t'as touché un truc, je pense, avec Travis, qui fait que, je parlais des retenues que j'ai sur le personnage, mais ça, c'est un argument que j'ai aussi, c'est que je trouve que c'est un rappeur qui est très, où il a une fanbase qui est très dans l'instantané, tu vois. Limite, il faudrait qu'il y ait un projet tous les ans, qu'il y ait une hype de fou à chaque fois, que le gars, il batte tous les records. Ça, c'est un truc que moi, j'aime pas trop, tu vois.
Bah, le problème, c'est qu'il a habitué dès le début.
Et en fait, le problème, c'est qu'il a mis les deux pieds là-dedans avec Astroworld et tout le marketing. Mais bon, après, je pense que c'est aussi une culture que nous, on n'a pas, tu vois. C'est une culture des US.
Oui.
Pour rappel, en 2017, c'est un peu le point people, tu vois. Mais c'est aussi le moment où il commence à fréquenter la personne qui est toujours sa femme aujourd'hui. C'est KJ.
Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Moi, je suis tellement pas people que je m'en... Oui, mais c'est...
Ah, mais c'est huge là-bas, parce que pour ceux qui connaissent pas forcément, Kylie Jenner, c'est les Kardashians, donc c'est la télé-réalité. Et donc, comme tous les mecs qui ont fréquenté une Kardashian ou affilié par le clan, Travis, il est passé par la case télé-réalité, méga exposition, parce que là-bas, c'est huge de fou, tu vois. Et donc, il est un peu là-dedans. Je pense que il est... Enfin, contrairement à certains mecs que ça a broyé toute cette exposition, c'est ok pour lui, mais quand même, tu vois, c'est costaud. Et je tiens juste à faire un erratum tout à l'heure quand on parlait de l'album de Savage et Offset, tu vois, en featuring. C'est Without Warning, l'album.
Ah, ok, d'accord. Okay.
L'autre, c'est juste un album de Metro Boomin et je crois un peu 21, où justement ils avaient plein de gens.
Ah, ok, voilà, d'accord.
Juste pour faire un petit erratum.
D'accord, ok, pas de soucis.
Stallone, on est d'accord que c'est le bon dernier de la discographie.
Malheureusement, il fallait en parler parce que ça fait partie quand même des disques qui sont sortis en fait dans les. C'est presque une pour moi, c'est presque une anomalie, tu vois. Limite, effectivement. Mais en fait, je me dis, c'est presque une anomalie, mais il aurait été bon, on en aurait parlé aussi, tu vois. On se serait même forcé à en parler et ça me paraissait honnête de dire, bah ouais, en même temps, ça fait partie de la discographie de Travis Scott, ce disque. C'est un disque qui est sorti avec son nom dessus, c'est pas n'importe quoi.
Ouais, parce que comme Drake en a sorti deux so far, c'est pas ses albums les plus notables, mais voilà, ils sont là, et puis je pense que eux, c'est du contenu facile, tu vois, à l'ère du streaming, c'est du contenu facile et plaisir, genre ils se font kiffer, et en plus...
Ouais, ça permet d'exister, le temps de sortir nos albums respectifs.
C'est
ouais,
ça, c'est ça ouais. Et pour peu qu'ils aient fait un hit, bon alors là, c'est Get Jackpot.
Oui, c'était ça, ouais.
Bon, là, on le met troisième.
On le met bon dernier. Et on va passer tout de suite. On en a beaucoup parlé depuis le début. Il plane ce disque sur la discographie et dans l'ombre. Mais évidemment, puisque c'est le monumental Astroworld dont on va parler tout de suite. We'll be right back. c'est la tâche qui m'a été incombée de parler d'Astro World. Il y a pas, enfin c'est pas qu'il y a pas grand chose à dire sur ce disque, mais comme j'ai commencé à en parler, c'est un disque qui a été teasé, bah lui aussi. C'est un peu le problème de Travis Scott, je pense, on pointait un peu ça du doigt, c'est que c'est un teaser. Alors il adore ça, hein, Travis Scott. En fait, il adore, je pense que c'est pardon du terme, mais un bandeur de bande-annonce au cinéma, je pense.
C'est un marketeur raté, il a très très long dans la pub, je pense.
mais je pense qu'il il adore ça parce qu'en fait, en 2016, son album Bird in the Trap, Sing My Night, était même pas sorti. Qu'il annonçait déjà Astro World en fait. C'est-à-dire que vraiment.
Et Utopia était déjà annoncé au moment d'Astro World. C'est
ouais, il fait que ça en fait. Quand il est en train de préparer un deuxième album, que son troisième album est déjà annoncé, etc. Et justement, comme je le disais, déjà, il était annoncé pour 2017. Donc vraiment, à la base. Tu le disais, Travis Scott, il était dans ce rythme de dire « Je vais sortir un album par an ». Il avait fait une mixtape en 2013, une mixtape en 2014, un album en 2015, un album en 2016. Mine de rien, l'album avec Quavo, c'est 2017. Et donc, en 2018, en août, arrive le monumental Astro World, qui était donc multi-teasé, tout le monde attendait. Il y avait des hashtags partout, je me souviens, sur les réseaux sociaux. Il était attendu comme le Messi, ce disque. Un album qui rend hommage à un parc à thème, qui s'appelle Six Flags Astro World, qui justement est à Houston. Au Texas et qui a fermé en 2005. Encore une fois, une prise de position sociale de la part de Travis Scott, même politique, en disant en gros qu'il voulait un peu dénoncer le fait qu'on avait rasé un parc à thème qui régalait les enfants pour construire des immeubles, je crois, ou des parkings, je sais plus si c'était. Je sais plus si c'était ça.
Ouais, et puis plus spécialement, c'est pour parler un peu de la désertification des zones un peu rurales aux États-Unis. Ouais. En mode, moi je viens de Houston, aujourd'hui c'est la misère.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça, c'est prendre cet exemple, comme d'habitude, hein, c'est prendre quelque chose de très précis pour toucher à l'universel. Bah, c'est prendre cet exemple-là pour dénoncer tout ça. Lui, c'est pour ça que c'est marrant parce que on va raccrocher les ponts, mais c'est un peu ça avec Travis Scott. Hein, sa discographie est un peu pensée comme ça. Hein. C'est quelqu'un d'assez mental, je pense, Travis Scott, bien que des fois il soit dans l'instantanéité. Lui, il voit Astro World comme une suite directe, non pas à son deuxième album. Mais à son premier, Rodeo.
Ouais, donc, Rodeo, ouais.
Ouais, pour lui, en fait, c'est un peu comme si Birds était pas un. On a l'impression que Bird in the Trap, Sing My Night, pour Travis Scott lui-même, c'est pas vraiment un album à lui. Enfin, c'est un peu bizarre. Même la façon dont il en parle encore aujourd'hui, etc. Vraiment, Astro World est vraiment pensé comme la suite directe de Rodeo, littéralement. Et donc du coup de dire voilà si vous avez compris Rodeo vous comprendrez Astro World et en gros c'est vraiment de ses propres mots c'est je suis en train juste de terminer la saga que j'ai commencé avec mon premier album, c'est trop bizarre mais du coup il le dira même en interview que normalement Astro World devait être dans sa pensée son deuxième album en fait.
Et clairement je crois qu'il a déjà dit plusieurs fois que cet album là c'était son préféré et lui il considère que c'est l'album qu'il aurait toujours voulu faire, tu
c'est
vois.
Ça
c'est un album définitif pour lui.
J'ai même une citation hein, je suis j'avais toutes ces idées, j'ai tout fait un peu trop rapidement des fois avant, I'm finally back home with Astro World. Donc en fait c'est même un projet du cœur et je pense que c'est aussi ça qui a parlé aux fans et qui fait que les fans étaient hyper en attente, c'est qu'ils se sont dit waouh, attends, vu les deux dingueries qu'il nous a sortis avant, donc Rodeo et Bird in the Trap, Sing My Night, s'il considère qu'Astro World c'est mieux que ça, attends, où est-ce qu'il va nous emmener? Et donc,
ouais,
donc très vite, on commence pareil à avoir du teasing, du bruit de couloir, des morceaux qui partent sur. Il y a des morceaux qui sont mis en ligne sur SoundCloud de la part de Travis Scott lui-même, avec des featuring avec Playboi Carti, etc. Le morceau Green and Purple, Lil Uzi Vert aussi, Kanye West sur un morceau qui s'appelle Watch, 2-3 mois avant la sortie de l'album. Donc on sait déjà qui va être sur le disque. Dans des interviews, il commence à nous raconter qu'il va y avoir sûrement un petit rookie du nom de Frank Ocean sur le disque. voilà. Enfin voilà, ouais,
Frank Ocean, je crois qu'il fait bander toute la critique.
Ah ouais. Et là, du coup, t'as tout le monde qui a relevé la tête. Certaines personnes encore dubitatives, tu sais, qui ont commencé à relever la tête en mode oulololol. Qu'est-ce
que. De toute façon, c'est la tracklist le plus impressionnant des dernières années. Hein.
Oui. Je suis complètement d'accord là-dessus. Ouais. Et du coup, Kid Cudi qui a annoncé aussi. Enfin bref. Et sort donc Astro World le 3 août, et c'est, il faut le dire, à l'époque, moi je m'en souviens très bien, c'est une déflagration.
Bah c'est un blockbuster. Hein.
C'est vraiment la déflagration. Genre,
non, pas que de ça.
Bah, vraiment, l'été, donc c'est le 3 août, genre la fin de l'été 2018, tout le monde ne parle que de cet album là. Vraiment, genre tout le monde se prend une giga claque dans la gueule.
Il y a deux albums qui sortent ce jour là. Il y a celui de Travis et celui de Mac Miller, Swimming.
J'avais oublié, mais oui, c'est ça.
Swimming, ouais, c'est ça. Et genre, moi je sais que je suis plus dans le Mac Miller que le Travis Scott, mais genre personne ne parle du Mac Miller.
Ah ouais,
tout le monde est que sur le Travis. À fond.
Et puis c'est du coup c'est un succès commercial. Alors comme tu le disais, beaucoup aux États-Unis, évidemment. Mais c'est vraiment une énorme vente. Vraiment un gros succès. Et là, y a vraiment des tubes qui commencent à ressortir de ce disque. Hein. Des énormes tubes. On peut le Sycomode, bien sûr. Sycomode est probablement le plus avec ce qui va devenir une vraie marque de fabrique aussi de Travis Scott, c'est-à-dire ce qu'on appelle le switch beat, c'est-à-dire qu'en cours de prod, le morceau change complètement d'univers, d'ambiance, de rythme, et c'est complètement fou, quoi.
Il a enfanté une génération de producteurs qui m'ont fait vriller dans le mauvais sens avec ça. Genre, à vouloir faire leur Travis, là, j'en pouvais plus. Ça veut dire pas merci
c'est
pour
vrai,
ça.
C'est vrai qu'au dernier moment, ça devenait...
Devenait systématique, quoi. Genre, morceau de 6 minutes, changement de prod. C'est rare les morceaux qui soient vraiment agréables là-dedans, tu vois. Dans les derniers exemples, DC et Damso, tu vois, c'était très fort. Oui. Et parce que c'est pensé pour l'être. Quand c'est gratuit, bon. Sycomode, par contre, c'est une dinguerie. Mais je pense que c'est une dinguerie à cause de Drake, pas à cause de Travis.
Parce que quand Drake commence, d'un coup, ça s'arrête. Tu fais, wow, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça part.
Les petites notes, là. Les petites notes mineures, là, en mode. J'ai l'impression que je suis dans The Thing. Genre, il y a un truc qui va m'attaquer. Et il y a l'autre qui arrive, qui commence à faire, qui flex, genre comme il a jamais flexé. Je pense que c'est un des meilleurs couplets de la carrière de Drake. Genre c'est.
Je suis complètement d'accord, ouais.
Puis et là, il y a des pics à Kanye en plus quand ils sont en clash. Enfin, c'est gros Sycomode pour ça aussi.
Ouais, c'est un gros disque. On parlera bien sûr des producteurs on trouve pêle-mêle encore une fois Mike Dean, hein, qui est un gars qui aime beaucoup travailler avec Kanye West depuis quelques temps, mais qui aime du coup aussi travailler avec Travis Scott pour toutes les sonorités qu'il a pu lui apporter. Je savais pas, mais Rick Rubin a travaillé sur Carousel, notamment. Il a coécrit Carousel. Je savais pas du tout que Rick Rubin était sur l'album. Il faut préciser, moi je me souviens à l'époque aussi, un truc qui avait fait vriller les gens. Tame Impala sur Skeletons. Ouais. Ça, je me souviens aussi, ça avait fait beaucoup parler. Le morceau est incroyable, moi je l'adore.
Et Stevie Wonder.
Et Stevie Wonder, bien sûr.
Et parlons James de. Blake.
Bien sûr, Stevie Wonder, bien sûr, qui est sur ce disque aussi. Stevie Wonder qui est sur ce disque. On a des morceaux samplés, notamment de Björk. Quand tu regardes les crédits de ce disque, c'est vraiment.
C'est n'importe quoi.
Ah, c'est monumental. Ça va dans tous les sens, aussi bien sur les gens qui ont travaillé directement sur les morceaux que sur les samples utilisés. Ça va dans tous les sens, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a. C'est d'une cohérence et d'une précision chirurgicale, vraiment, ce disque. Moi, je me souviens très bien de la première écoute de ce morceau. J'étais sur mon PC pendant que je travaillais, j'écrivais des trucs et tout. Je me suis arrêté. Vraiment, dès Carousel, je me suis arrêté. J'étais là, genre, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Mais vraiment, j'en pouvais plus. Hein. J'en pouvais plus. Et aussi, Common m'a fait vriller. J'ai dit, ok, d'accord, je me pose deux minutes, on va écouter tranquillement. Il y a des trucs qui me. L'enchaînement entre RIP, Screw. Et Stop Trying to Be God, je me souviens très bien, le quatrième et cinquième morceau, mec m'avait rendu zinzin à l'époque. Vraiment, les sonorités, la façon de rapper. Je trouve que d'ailleurs, Travis Scott, qui justement n'a jamais été un grand rappeur, il est plutôt bon sur ce disque. Il a des vrais moments d'épiphanie sur cet album-là, je trouve, où il ressort bien. Le Wake Up avec The Weeknd, évidemment. Mais il y a des très grands morceaux hein, sur ce disque. Hein. Je ne sais pas ce que toi, t'en as pensé de cet album, mais...
Moi aussi, il y a des morceaux. La première fois que je l'écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, je suis pas spécialement enthousiasmé.
Ah ouais,
partout,
c'est vrai.
Et je ne reste pas enthousiasmé partout. Je pense pas que cet album, tu vois, c'est un no-skip. Genre, il y a beaucoup de chansons en fait qui m'embêtent. Mais en fait, c'est le truc de cet album, c'est que c'est un peu comme un roller coaster. Genre, quand ça va haut et que la descente elle est costaud, tu vois, c'est un bonheur. Bon, je suis pas très roller coaster, je sais que toi non plus, mais c'est pour reprendre un peu la métaphore, tu vois, de la ride. Genre quand c'est bien, c'est vraiment très très bien. Mais je trouve que sur cet album, il a vraiment tiré le meilleur parti de ses invités. Et du coup, quand il est en solo, c'est presque plat, tu vois. Et c'est ça que je regrette, c'est que t'as vraiment des moments où il y a le morceau avec Tame Impala, genre et Pharrell, c'est fou. Le Wake Up avec The Weeknd, c'est fou. En fait, genre, je trouve que jusqu'au morceau avec 21, c'est vraiment cool. Après, il y a des morceaux qui sont sympas, genre j'adore You Say Might avec Gunnar, et la fin de l'album, elle tombe un peu, elle est un peu décrépite.
Ah ouais, t'as
au début, où, ouais, Stargazing, genre l'intro, elle est folle. Carousel, t'es là, t'es en mode waouh. Après, t'as Psycho Mode, le morceau, il est. Bon, je pense que tout le monde a vrillé au couplet de Drake. On n'en a pas parlé, mais il y a un documentaire qui accompagne cet album sur Netflix.
Oui, c'est vrai.
Et je sais pas si tu te souviens des images de quand Travis reçoit le couplet de Drake.
Si, t'as, mais tu me le rappelles, je l'ai vu, en fait, je l'ai vu à l'époque.
Ils sont tous fous, genre, parce que Drake, là, il leur envoie un truc et ils sont en mode, qu'est-ce que c'est que ça, quoi.
C'est trop marrant parce que ça fait partie des trucs qui m'ont fait comprendre, enfin, tu sais, tu sais que, pour faire une petite aparté sur Drake, qui est beaucoup considéré, certains, je sais pas, peut-être par jalousie ou par le fait de pas voir la vérité en face, de dire que
c'est
comme
un clown.
Ouais, comme un clown et tout, alors que vraiment, je pense que Drake... Dans 20 ans, je sais pas, il y a peut-être des gens encore un peu indécis qui se rendront compte que c'est un rappeur exceptionnel, hein, vraiment.
Je pense que le grand problème de Drake actuellement, c'est qu'il arrive plus à se prendre au sérieux.
Ah oui, tu crois qu'il est trop dans la vanne.
Il est trop dans la vanne, le second degré. Il a perdu ce truc qu'il avait au début, où il arrivait, tu vois, un peu à se mettre tout nu et à s'en foutre de ce qu'on pense de lui. Je trouve que son statut de grande star l'a un peu bridé.
Il gagne trop d'argent.
Dans ce qu'il fait. Ouais, il est trop riche, malheureusement. Mais en vrai, je vais jamais dire, putain, il a réussi, c'est con. Mais je trouve que. Sur ses premiers albums, il y a un peu un truc où il s'en fiche de ce qu'on dit de lui, tu vois.
Ouais.
Et dernièrement, il est un peu trop centré sur l'image qu'il veut envoyer. Je trouve que c'est un truc qu'il a un peu depuis Views, où il est un peu auto-centré sur l'image qu'il envoie.
Oui,
et du coup,
ça
le bride. Bon, après, c'est mon avis, tu vois, sur Drake. Mais effectivement, genre, c'est un rappeur incroyable. De toute façon, il y a juste à écouter If You're Reading, See It's Too Late. Si vous trouvez pas qu'il est incroyable dessus, bon, je pense que vous connaissez rien au rap. Voilà,
ouais, ouais.
Je peux vous dire, genre.
Mais ouais, hyper intéressant. Donc toi, ce disque, t'as pas marqué.
Donc, ah, si, il m'a marqué. Enfin, genre, ça serait mentir de dire que c'est pas un grand disque, tu vois. Pour la musique, enfin, même pour ce qu'il représente pour énormément de personnes, je pense que c'est facilement un album. Si tu demandes à des gens qui ont découvert le rap dans les années 2010 et qui étaient genre ados à cette époque-là, ils diront que c'est le meilleur album de rap de tous les temps.
Ouais.
C'est leur My Beautiful Dark Twisted Fantasy à eux. Mais moi, je trouve que dans l'exécution globale, déjà l'album est long, l'album est pas tout le temps satisfaisant.
Temps ouais, 58 minutes quand même.
Dans ce que ça raconte, c'est pas tout le temps intéressant. C'est juste que au niveau des sonorités, on va chercher des choses qui sont super intéressantes. Et t'en parles aussi sur les samples. C'est pour les gens qui s'intéressent un peu à la musique au rap, il y a tellement de détails à analyser, ce qui en fait un disque super riche. À digérer, et je pense que c'est ça qui est plaisant. Mais après, bah, en termes d'efficacité, tu vois, je trouve que le précédent Trap Nanani McKnight là est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fini, même s'il n'arrive pas à atteindre les mêmes sommets. Genre, c'est un meilleur disque dans sa globalité.
Ouais,
mais si tu me dis c'est quoi les meilleurs sons de Travis Scott, bah là-dessus, il y a sans doute 3 du top 5, tu vois.
C'est marrant parce que c'est exactement ce que tu dis qui fait. Pour m'expliquer par rapport à tout à l'heure, qui fait que je mets dans mon cœur, enfin que j'ai beaucoup plus apprécié à la réécoute Birds in the Trap Sing My Nights, parce que c'est vrai que, pour être honnête, en réécoutant aujourd'hui Astroworld, j'avoue que il y a eu, après le morceau, je me souviens que c'est 5% Tint, ça commence un peu à, il y a un creux, on relève la tête à Yosemite. On rebaisse la tête jusqu'à peut-être Butterfly Effect, tu vois, genre qui était le premier single d'ailleurs de l'album. Et du coup, ça repart après, même les deux derniers morceaux, bref, au bout d'un moment.
Ils sont anecdotiques. C'est dommage quand un début a été si légendaire, tu vois.
Et je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, quand je réécoute, je me dis, on en a peut-être beaucoup fait avec ce disque, tu vois. Mais à raison, hein, c'est un gros disque. Il y a une vraie direction artistique qu'on avait encore jamais vue. En tout cas, il y a eu pas mal de prémices avec ses précédents disques, mais là, c'est vraiment l'aboutissement pour moi de tout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments trop faibles sur ce disque aujourd'hui qui fait que je préfère réécouter d'une traite Birds in the Trap, Sing My Night que Astroworld. Astroworld, vraiment, je me suis même fait un truc, c'est que j'ai fait une playlist sur Spotify où en gros, j'ai enlevé les morceaux. J'ai enlevé les morceaux que je trouve plus anecdotiques, quoi, en disant c'est pas grave si je les réentends pas, en écoutant. Et du coup, ce qui donne un album un peu plus contenu, moi je crois je crois 12-13 titres, un truc comme ça, et qui fait que je me dis, ça aurait été ça, il aurait été beau, il aurait été vraiment numéro 1 aujourd'hui, tu vois.
Moi je vais faire briller les fans de l'album, mais par exemple, j'ai le vinyle, et j'avoue, cet album, ça m'arrive de l'écouter, tu vois, assez souvent. C'est partie des disques qui reviennent. Genre, quand je l'écoute, j'écoute que le premier disque. Je crois qu'il s'arrête à Wake Up de The Weeknd ou à peu près vers là.
Oui, oui, oui.
Et genre, je mets jamais le deuxième.
Ah,
parce
wow.
que, genre, dans ma tête, je suis un peu en mode, bah, j'ai écouté le meilleur. Y a pas un truc qui me donne envie de, tu vois, de continuer mon écoute. Enfin, j'ai pas de récompense, tu vois, dans mon cerveau qui me dit, voilà, les morceaux qui arrivent, c'est dinguerie. Bah non, en fait, t'as mis toutes tes artilleries au début. Parce qu'à la limite, si Psycho Mode était à la fin, bah ouais, je reste. Mais bon, bah, j'ai déjà eu le meilleur. Pourquoi continuer, quoi? Et c'est un peu ça le problème.
Je veux quand même saluer, j'ai toujours été sur le cul, moi, de la. J'aime beaucoup sur ce disque, justement, un morceau que j'ai un peu redécouvert, je sais pas pourquoi, mais le morceau qui s'appelle Astro Thunder, qui est le 11e morceau, avec une coprod de Thundercat, qui est un peu le bassiste.
Ouais, il groove ce morceau.
Le bassiste de vos rappeurs préférés. Il y a une prod un peu. On a l'impression que c'est la prod, elle se fait ralentir, bah, très Chop and Screw, en fait, parfois, dans la prod. Qui est hyper intéressante, et j'étais là genre, putain, mais ce morceau avec la ligne de basse, bon, elle est monumentale parce que Thundercat derrière, mais j'étais là genre, putain, ce morceau il est balèze de fou, c'est incroyable. Ouais. Genre,
ça, c'est un bon enchaînement, Astro Thunder Into Yosemite, qui est, qui est très aérien pour le coup.
Ouais, ouais. Et il y a une prod hyper étrange, et j'étais vraiment en mode, putain, il est vraiment bien ce morceau, vraiment, c'est un très très bon morceau, et j'avais presque oublié, tu vois, tellement le début de l'album est monumental, et que je m'étais un peu ennuyé sur la deuxième partie. J'ai dit, wow, là d'un coup ça m'a réveillé. J'ai fait, oh putain, bien ce disque, il est bien ce morceau, c'est un truc de fou. Mais ouais, non, très bon disque.
Il y a un truc qui est cool quand même sur l'album, c'est qu'on découvre Don Toliver.
Oui, c'est vrai, putain, oui.
Qui est, enfin, on le découvre vraiment, qui est quand même un artiste signé sur le label de Travis, qui est un peu un des gros prospects de ces dernières années. Même si en termes de discographie, c'est assez passable. Mais genre, c'est un mec qui a un immense talent, quoi, et là on le sent. Un ensemble de fou. Bah dis-moi, Benjamin, toi, tu
le
mets où?
Moi, en fait, le truc, c'est que moi, pour être tout à fait honnête, je l'aurais mis de deuxième position. C'est-à-dire que je l'aurais mis entre Birds in the Traps in My Night et Rodeo. Parce que je trouve que ça reste quand même sa meilleure place, tu vois, aujourd'hui. Bizarrement, attends, on va se faire incendier par les fans. Les gens vont dire, vous avez pas. Le fait qu'on mette pas Astro World premier, on va se faire.
Pire que toi, hein.
Ah ouais, toi tu vas mettre derrière Rodeo, mais je me doute que toi t'es un pirate.
Bah, en fait, moi je trouve que sur j'écoute Rodeo, j'y reviens plus souvent que Astro World.
Ah ouais, ah non, quand même pas, ouais. Moi j'avoue que je trouve que là où quand il disait que il trouvait que c'était la suite directe de Rodeo, même une version c'était même son second album plus abouti. Là par contre, je suis d'accord avec l'artiste lui-même, tu vois, qui disait ça. Je trouve que ça reste devant Rodeo. Pour moi, c'est vraiment la version aboutie de Rodeo Astro World, tu vois. C'est vraiment.
Non, mais après, moi, ça me dérange pas de le mettre deuxième, mais c'est sûr que bah, ouais, les fans foutent très vite, ils vont me dire, mais on est des malades, ça se trouve, ils ont déjà arrêté de nous écouter d'ailleurs.
Ah oui, probablement.
Mais ouais, pour moi, c'est moins abouti dans l'ensemble, même si, clairement, je leur dis, quand c'est très très bien, c'est dans le meilleur de ce qu'il peut faire. Et genre, s'il avait fait un album de 10 titres condensés. Bah, je pense que ce serait peut-être un des meilleurs disques de rap de tous les temps. Malheureusement, il a choisi d'en mettre 20, quasiment, et ça se perd, quoi. Ouais c'est ça.
Bon, je veux juste signaler un truc qu'on n'a pas dit, parce que ça me régale. Mon morceau préféré du disque, Stop Trying to Be God, notamment parce qu'il y a le chanteur de Earth, Wind & Fire dessus. Voilà, c'est con, mais ça me régale. voilà, Philippe Bailey qui se retrouve comme ça d'un coup. Il arrive à associer Philippe Bailey de Earth, Wind & Fire et James Blake. Avec un petite apparition de Kid Cudi et BJ de Chicago Kid. Genre ça régale, il se fait plaisir sur ce disque aussi de temps en temps, et ça nous fait plaisir. Et je trouve que c'est vraiment des très comme tu dis, quand c'est des grands morceaux comme ça, bah tu te prends en pleine gueule, hein.
C'est lui qui est juste venu lâcher des
oui, bah
genre, c'est ça me très bien, genre.
Et ce qui est très drôle, je me souviens, c'est qu'à l'époque c'était vraiment le pic des mèmes sur Kid Cudi, qui on veut juste l'entendre meumeumer sur les morceaux, juste faire
ouais, parce qu'il vient de sortir l'album avec Kanye, Kid Cudi Ghost, où
exactement.
Il meumeut à fond, genre, ouais, ça
exactement. Et là, Stop Trying to Be God, Kid Cudi fait juste ça sur le morceau, et genre, et là tu fais, bah en fait, bah je bande.
Ah, c'est parfait, c'est parfait.
merci beaucoup.
Et d'ailleurs, je trouve que c'est une meilleure collab que le morceau The Scott qu'ils feront plus tard là.
Oui, oh là là, ouais.
Sur Fortnite, qui est pas bon, hein, mais qui a super bien marché parce que Travis Scott, marketing.
Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, je crois qu'on peut tout de suite dire, et on va l'évacuer tout de suite, mais Travis Scott, je crois, et Kid Cudi ont déjà teasé plus ou moins qu'un projet et un album en commun étaient toujours dans les tiroirs.
Ça peut être sympa.
Ouais, ça peut être sympa à écouter.
Le père, le fils, voilà.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça te dit, on continue avec le prochain album? De toute façon, le prochain disque, il s'agit du dernier Ah oui, ouais. on précise tout de suite qu'on parle pas du projet Jack Boys.
Ouais,
parce
que... on peut en parler. Enfin, de toute façon, je pense qu'on va faire la transition du coup du après Astro World.
Ouais, ouais, on parle de l'après Astro World, puisqu'on va tout de suite parler du dernier album qui est sorti là cet été. Utopia, évidemment, c'est parti. Mmh.
Yep, du coup, bah, l'album qui est sorti il y a quelques semaines, c'est son dernier, qui est Utopia, qui a été teasé il y a longtemps.
Il y a 4 ans. Hein. Bah, là, du coup, il nous a fait attendre, là, pour le coup. Là, pour le coup, il nous a fait attendre entre les deux disques.
Et entre-temps, il s'est passé des choses.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il nous a fait attendre, mais il y a des raisons pour lesquelles il nous a fait attendre aussi.
Ouais, donc déjà, il a développé dans un premier temps son label, Cactus Jack, où il a signé ses artistes comme Shake West, Don't Oliver, entre autres. Et il a sorti une petite mixtape. Puis sympa, anecdotique, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien, vraiment beaucoup.
Je l'aime bien,
moi. Dessus,
je
l'aime cool, ben hein. Moi aussi, je la trouve cool. Il y a Alice in the Room avec Rosalia, Lee Baby, bon, c'est un remix. Il y a Shake West, il y a Quavo Offset, Don't Oliver, il y a Young Thug, et il y a Pop Smoke, paix à son âme évidemment. Ben, c'est un projet qui est très sympa et qui a un petit peu présenté ses envies, en tout cas, de créer un peu son goût de musique à lui.
J'aime bien la vibe de la pochette, je dis juste ça comme ça, parce qu'on parlait. On parlait des pochettes de Travis Scott sur lequel il se plante toujours. Bah, je trouve que sur le projet Jack Boys, il y a une vraie vibe sur cette pochette. Donc en fait, on voit des gars sur un parking avec des bagnoles, avec des cagoules jaunes. Je sais pas, il y a une ambiance un peu... t'as pas envie d'être au milieu de ces gars-là, tu vois. Genre vraiment, il y a un truc qui se détache qui est trop cool. J'aime beaucoup.
C'est ça. Et du coup, en vrai, du coup, Utopia a été plus teasé après Astro World. J'ai dit une bêtise, je crois que c'est 2019-2020. Enfin, il l'avait teasé avec, sur Instagram. Mais en fait, le souci, c'est que l'album devait sortir plus tôt. Mais
il y a eu deux choses.
Il y a eu un souci. D'un point de vue personnel, je crois qu'il se sépare de Kylie Jenner, à qui il a un enfant. Donc forcément, ça crée des complications aussi artistiques et tout ça. Mais il y a surtout le drame de Astro World.
On peut parler aussi. Attends, alors juste avant de parler du drame d'Astro World, il y a quand même Covid aussi qui fait que il a plus ou moins dit que ça a un peu ralenti ses envies créatives. Enfin, en tout cas, ça a un peu ralenti. Mais c'est vrai que du coup, en plus de ça derrière, il y a eu ce drame.
Par contre, ça a pas ralenti ses envies de faire du marketing.
Oui, c'est sûr.
Avec Nike, McDo, tout ça.
C'est vrai que c'était à ce moment-là, McDo, tout.
Fortnite, PlayStation.
Donc oui, pardon de t'avoir coupé, mais oui.
Non, t'inquiète. De toute façon, je pense que tout le monde est un peu au courant, mais pour refaire les événements. Je crois que c'est en 2022, je sais plus, mais donc Travis Scott et
Astroworld, le festival Astroworld. Attends, je vais retrouver, mais
ouais, en tout cas, juste pour ceux qui savent pas forcément, Astroworld c'est un
2021.
Festival. Novembre 2021.
Covid,
ouais. Ouais, bah Travis Scott il a créé son propre festival qui s'appelle le Astroworld Festival, où en gros il invite plein de gens de la scène rap à venir performer, et c'était un peu devenu le rendez-vous des fans de rap et aussi des fans de Travis. Genre les gens se tuaient pour avoir des places, enfin vraiment en mode ambiance de fou, c'est un peu le festival qui monte. Qu'il faut savoir qu'aux US, c'est qu'il y a pas mal de rappeurs qui ont un peu leur festival. Je sais que Tyler's Creator, il a le sien aussi, qui l'organise, donc c'est quelque chose qui est assez commun. Mais donc en tout cas, Astroworld, comme les concerts de Travis Scott, il a un petit peu cette réputation, ce festival, d'être dangereux.
Il y avait déjà eu une dinguerie en 2019, faut préciser. 2 ans avant Covid, il y avait déjà eu 3 personnes qui avaient été blessées dans une bousculade déjà dans le festival. Donc il y avait déjà un petit passif. Et je crois que même il y a eu plusieurs histoires dans d'autres concerts de Travis Scott où il y a déjà eu des blessés.
Des blessés et tout. Parce qu'en fait, il engraine facilement ses fans à faire des bêtises. Ça peut être des bêtises genre des mosh pits, mais ça peut être aussi des bêtises genre sauter. Je sais qu'il y a des gens qui racontent. Sauter des balcons, faire des dingueries, quoi. Et lui, c'est un truc qui l'encourage, qui est un peu stupide, mais je pense qu'il est dans cette espèce d'énergie où il se dit, c'est cool. Sauf que bah, quand ça peut tuer des gens, c'est pas cool. Et ce qui s'est passé au truc d'Astroworld, c'est que bah, des gens sont morts, en fait, dans des pogos. Des gens ont été écrasés.
Voilà. Ouais, les images, alors, comme on le dit, trigger warning, si vous voulez aller voir les images sur Internet, on parle d'une énorme bousculade qui provoque quand même la mort de 8 personnes au moment où ça se passe. Les images tournent sur les réseaux sociaux où on voit effectivement l'énorme mouvement de foule. On voit les voitures de secours qui n'arrivent même plus à passer. Et surtout, on voit un Travis Scott sur scène qui continue à rapper et personne... Hey.
Personne ne comprend en fait, ce qui se passe, parce que pour lui c'est normal en fait, c'est l'ambiance normale de son truc, c'est tout le temps le bazar quoi, c'est un peu comparable à un truc de métal un peu comme Hellfest quoi.
C'est ça, est-ce que je peux recommander un petit truc pour celles qui s'intéressent? Il y a une chaîne YouTube excellente qui s'appelle Fulloscopy. C'est de la science sur les foules, tout simplement. Voilà. Et il a fait une vidéo il y a 2 mois qui s'appelle Les pires mouvements de foule expliqués par la science. Il va faire une série de 3 vidéos sur le sujet. Et cette première vidéo parle justement d'Astroworld et il analyse pourquoi Astroworld ça a dégénéré. Pourquoi, comment, avec les données qu'on a aujourd'hui, le recul qu'on a un petit peu sur cet événement, pourquoi ça a dégénéré, c'est extrêmement intéressant, encore une fois content warning, trigger warning, tout ce que vous voulez, mais en tout cas il y a des images etc. dans le truc ça fait un peu bizarre qu'un événement soit pris à froid comme ça sur un événement qui a fait des morts littéralement, mais c'est extrêmement intéressant justement de voir à quel point c'est plus compliqué que ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire de dire c'est de la faute à Travis Scott parce que c'est ce qui s'est passé du coup, et c'est ce qui a fait que
Oui, malheureusement, c'est sa faute et il s'est fait attaquer en justice.
Exactement. C'est ce qui s'est
voilà,
passé.
Et c'est ce qui fait aussi qu'Utopia a été retardé, c'est que bon bah déjà niveau buzz, quand t'es dans le marketing à fond, c'est plutôt pas ouf. Même si on parle de toi, t'es quand même responsable de la mort de plusieurs personnes parce que t'encourages des comportements débiles et dangereux à tes concerts.
Très compliqué. Voilà.
Et déjà le fait qu'il soit revenu aujourd'hui et qu'il ait tout quand même. Qu'il ait quand même beaucoup d'attention de la part des gens, ça m'étonne parce que globalement c'était il y a 2 ans. Donc c'est quand même...
C'est assez récent.
On va dire qu'il s'en sort bien. Il a bien fait de garder le silence entre-temps et justement de laisser passer un peu de temps avant de revenir. Quoi.
Ouais, c'est marrant parce que j'ai un énorme doute, mais ça se trouve c'est dans un podcast qu'on a enregistré, qu'on n'a pas publié ou dans un live. Je suis persuadé, mec, il y a une trace de nous qui en parlons où moi je te dis... Moi, ma théorie, c'était qu'il allait jamais revenir. Enfin, pour moi, il était grillé, c'était terminé pour lui, en fait, après cette histoire-là, tu vois. Parce qu'il était trop en tort... dans cette histoire, bien qu'il y ait aussi des histoires de sécurité.
Je crois qu'on en avait parlé en live sur ta chaîne dans une matinale ou quelque chose comme ça.
C'est possible, ouais. Parce que pour moi, il est tellement en tort. Alors, on se rend compte avec le temps et les procès et les analyses. Quand je disais qu'il n'était pas 100% en tort, c'est qu'il y a aussi des histoires de système de sécurité.
C'est ça, d'organisation du festival, tout ça. Voilà.
Y a, bien sûr, c'est pas Travis Scott qui organise à 100% son festival. C'est juste littéralement impossible. Mais que comme ce soit lui qui était sur scène à ce moment-là, il a une responsabilité en tant qu'artiste et c'est ça qui est actuellement en procès et qui est très compliqué. Et je pensais vraiment, pour moi, il était grillé en fait, c'était fini quoi.
Ah, c'est un tout en fait, c'est sa faute de ne pas avoir arrêté le concert, mais c'est aussi sa faute de, pour moi, d'avoir cultivé cette culture un peu marketing, parce que c'est du marketing. Parce que par exemple, dernièrement, il est passé en Belgique, Travis Scott, je ne sais pas si tu en as entendu parler, au Festival des Ardentes.
Yes, ouais.
Il y a beaucoup de mes amis qui sont allés et qui m'ont dit... On est revenu vivant, c'était fou, c'était incroyable, la guerre, tu vois, truc très guerrier, comme si c'était dangereux de base. Et moi, je suis en mode, un concert, c'est pas censé être dangereux, déjà. Tu peux faire des pogos et tout. Non, mais c'est pas censé être un argument marketing de dire, on va au concert de Travis Scott, ça va être dangereux. Non.
Mais en plus, c'est tout le truc qu'il y a. Tu parlais du documentaire Netflix.
Ouais, il a cultivé cette mystique de c'est le bordel, on fait n'importe quoi.
Graphiquement parlant,
graphiquement
parlant, ça fait des images, des belles images, un peu d'une foule en liesse, plus qu'en liesse même, mais... Mais ouais, je suis d'accord avec toi.
Moi, je trouve que c'est... Enfin, je vais parler d'un mec qu'on va reparler plus tard, tu vois. Je trouve que Playboi Carti, tu vois, il a un peu cultivé cette idée que ses concerts, c'était des concerts de métal. Mais on est dans un truc beaucoup plus calme et rangé. Moins extravagant. Lui, il y avait vraiment ce truc de... Je veux que tout soit extrême, tout le temps. Tout. Et du coup, c'est dangereux. Et je recommande, s'il y a des gens que ça fascine, ça, et qui trouvent que c'est stylé... Peut-être vous poser des questions de est-ce que vraiment ça vaut le coup de se taper des pogos de la mort pour un artiste que vous aimez. Bon, les pogos c'est cool, mais quand c'est fait avec respect et pas avec l'intention de se blesser pour l'idée d'être extrême, hardcore, dangereux. Bon, la petite parenthèse fermée. Bon, bah là-dessus, on peut enchaîner.
Sur Utopia, du coup, qui sort.
Ça, exactement.
Qui est sorti là, donc, du coup, ouais.
Ouais, qui est sorti bah, il y a quelques jours. On a eu le temps d'écouter le disque quelques fois. Pour, on l'a même commandé en vinyle, je crois, tous les deux.
Oui, on parle au moment où les gens ont peut-être entendu parler de cette histoire, mais le vinyle a été mis à 5€ sur son site internet avec un code. On sait pas trop d'où ça sort, cette histoire, mais ouais.
Bon, donc, c'est du vent, hein.
Et ouais. Nous, comme un bon Yankee, bah, on en a profité hein, de commander l'album. On est des Yankees de fou.
Ouais. Bah, du coup, Utopia, il sort un petit peu dans ce contexte de Travis à plus forcément l'aura qu'il avait avant. Un peu entaché. Depuis, il y a eu extrêmement d'albums très excitants qui sont sortis dans le rap. Le rap ressemble plus trop à ce qu'il était à l'époque d'Utopia, ou même quand Travis a disparu. Enfin, je sais pas si t'as le même sentiment que moi, mais je trouve qu'on est revenu à des sonorités un peu différentes,
ouais.
Avec des tendances qui vont plus vers un truc bah, très rappé, un peu plus organique. On a un peu sorti de la trappe et des schémas maxi autotunés extravagants, quoi.
Il y a ça déjà d'un côté,
ouais.
Et d'autre côté, moi je suis pas un spécialiste rap, je me permets de le redire, mais quand je lis des spécialistes rap, il y a aussi ce truc où on a une tendance depuis un an voire même deux ans où le discours des spécialistes est de dire que le rap est un peu devenu chiant aussi.
Je suis spécialiste de rap. Je pense que j'ai une bonne culture et j'en écoute beaucoup.
Meilleur que moi, en tout cas.
Moi, je veux le dire, le rap en ce moment m'emmerde à un point pas possible. Que ce soit le rap français et le rap américain. Et il y a très peu d'albums qui réussissent à me donner envie et qui arrivent à vivre le long cours. Je crois que le dernier grand disque pour moi de rap américain, c'est Playboi Carti. Je sais que c'est un album qui fait pas l'unanimité, et pour moi c'est le dernier grand disque de rap qui est sorti. Entre temps il y a des projets sympas d'artistes confidentiels, mais il n'y a pas eu de blockbuster fou, quoi. On est plutôt sur une diète. Après c'est normal, c'est un cycle, tout ça, et pour accrocher directement à Utopia, bah, je pense que cette diète elle est pas finie, parce que ce disque il a un peu le même problème d'Astroworld. C'est qu'à une ère où, pour moi, on a tous compris que les albums du streaming, c'était trop long, que tout le monde en avait marre d'écouter des albums d'une heure et demie, bah, Travis Scott, il arrive avec un album d'1h15, ce qui n'est pas forcément smart, surtout quand tu dois reconquérir un peu un public gens qui sont un peu fatigués par le rap, plus fatigués par le mec, qu'on la dalle de bons sons, tu vois, qui veulent... j'aurais aimé que ce Travis, ce soit Astroworld 2, en termes de qualité, mais bon, bah, c'est pas le cas. Enfin, là, je vous dis direct hein, que j'ai pas beaucoup aimé l'album, mais il y a quand même des trucs à retenir. Je trouve que la première partie de l'album, jusqu'au son avec Playboi Carti, je trouve que c'est très bien et il y a des bonnes idées. Mais après, l'album souffre un peu du fantôme d'Astroworld déjà. Cette idée de je dois refaire un deuxième, bon, c'est forcément que tu te mets la pression. Ouais, c'est ça, avec un peu la même recette. Par exemple, tu peux le voir sur le feat avec Drake, Meltdown. Il y a un peu cette idée, on va faire ça commode, on y fait même des rêves dedans. Et on va juste inverser un peu la structure du morceau, on met Drake au début, avec un flow qui change de l'ordinaire, après on fait un break, on met Travis, enfin, ils ont essayé un peu de prendre la formule à l'envers pour refaire un peu le même son. T'as toujours The Weeknd pour faire exactement la même chose qu'il fait avec The Weeknd depuis le début, donc t'es un peu en mode, bon bah, c'est cool, mais les gars, vous l'avez fait 20 fois, on s'emmerde. Young Thug, c'est pareil, on est plus excité par Young Thug, tu vois, depuis longtemps, même si son album cette année était sympa, enfin... En fait, il n'y a pas de nouveauté. Cet album, il n'est pas frais, tu vois. Les nouveautés qu'on va avoir, je trouve que c'est sur les sonorités du début, uniquement sur la production, ou Modern Jam, tu vois, excitant. Bah, forcément, il y a Guimane, il n'y a Papa dessus.
Pour les gens, c'est... moi, je suis un ultra fan de Daft Punk, et Guimane, c'est vraiment... On va reparler quand même de ça.
C'est le robot of all time. Il y a Yéna même. En fait, je trouve que les... Enfin, c'est ça, les... 7-8 premiers morceaux, si on exclut celui avec Drake, enfin voilà, les 7 jusqu'à Playboi Carti en nommant Drake, c'est très bien. Au niveau des sonorités, c'est très intéressant. Et j'arrive à ressentir pourquoi il a voulu appeler cet album Utopia. Parce qu'il y a des sonorités très. Science-fiction dystopique. Justement, bah, on n'est pas du tout dans l'utopie, on est dans,
On peut spoiler les samples de Star Wars dans le morceau avec Drake, quand même.
c'est l'Amérique. Mais moi, je me suis dit, il y a des morceaux. Si tu faisais un espèce de Blade Runner moderne avec une bande son rap, bah, je pourrais voir Modern Jam, Take God,
oui,
ou Mayas dedans, tu vois. Je visualise. Et là, je me dis, c'est bien réussi. Mais malheureusement, ça s'écroule après. Et ensuite, bah, le reste, c'est juste est-ce que les invités vont réussir à trouver le morceau. Ça arrive par exemple sur le feat avec Westside Gunn. Westside Gunn, bon, bah, comme d'hab, rappe trop bien. Ça arrive avec Cizay qui est comme d'hab au top, mais bah, la plupart du temps, bah, on s'emmerde quoi. C'est un peu le problème.
Ah ouais, d'accord, ok. Okay.
Je sais pas toi ce que t'en as pensé, c'était bah, plus enthousiasme que moi. Mais...
Non, c'est marrant, mais en fait, j'ose pas me l'avouer. Tu vois ce que je veux dire?
T'es dans
en
le
fait,
déni.
Je suis dans un déni. C'est-à-dire que pour moi, cet album avait tout pour me plaire, et je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, je le réécoute un peu là, de temps en temps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est typiquement en ce moment. Allez, petite anecdote personnelle. C'est l'album qu'en ce moment j'écoute sous la douche. et je suis en mode, tu sais, je lance l'album.
Ouais.
Et puis après, une fois que j'ai terminé ma douche, machin, tout ça, je
ah, t'es au morceau Good Country, t'arrêtes quoi.
Et en fait, non, mais en fait, je me suis rendu compte qu'après, je laisse tourner l'album. Et en fait, j'arrive, je me rends compte qu'à partir du morceau. Après, alors moi, je vais au moins jusqu'au morceau avec Beyoncé. Parce que j'aime bien le morceau avec Beyoncé. Okay, et j'avoue okay. qu'après, morceau 10, bah, je commence à m'emmerder. Et j'avoue que même Circus Maximus, t'as The Weeknd et Swae Lee quand même dessus. Bah, ouais. Il est bien, mais.
C'est déjà vu.
Ça tape un peu à côté. Schizo avec Young Thug. Franchement, inintéressant. Le morceau Love avec Kid Cudi, je me suis un peu renseigné sur le sujet. Il paraît que c'est un morceau qui a été écrit justement. C'est un morceau qui existe depuis 9 ans. Apparemment, il y avait des premières démos qui existent sur Tumblr, etc. Il a été publié depuis 2014, ce morceau Love avec Kid Cudi. Parce que je me dis, c'est bizarre, je trouve que le morceau est pas bon. On dirait vraiment une chute d'un truc qu'ils ont pas sorti à l'époque. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est clairement ça. À savoir aussi, quand même, qu'à la fin de cet album. Il y a cet affreux morceau K-pop qui était le.
Ah, mais ça, je tiens à en parler. C'est
qui
genre,
était quand même le premier. Qui était quand même le. Faut pas oublier, c'est le morceau qui est sorti avant la sortie de l'album. Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, genre, c'est vraiment un morceau de l'album? Non, c'est juste un truc qui balance avant l'album.
C'est très très nul, hein.
Oh là là, mais c'est vraiment.
Je sais que.
Honte. C'est une honte. Ce morceau, c'est une honte absolue. C'est vraiment.
Il y a eu des blagues dans la twittosphère rap où il y a quelqu'un qui est un peu dans le rap qui a dit. On dirait de la musique faite par des algorithmes. Et les fans de Travis sont devenus fous. Et les gens étaient en mode. Après, ils ont hâte, tu vois, la sortie de l'album en disant le morceau, l'album, il fait 700 000 écoutes. Bien joué pour la musique d'algo. Comme si, tu vois, ça justifiait parce qu'il y a les chiffres que le morceau est bien. Mais, enfin, le morceau est nul. Enfin, genre vraiment.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi.
Tu pourrais faire un truc excitant. Bad Bunny, The Weeknd, Travis Scott.
Non, mais moi quand j'avais vu, quand ils avaient teasé le morceau avec les featuring dessus, j'étais là, genre, oulala, là, ça, c'est excitant. un retour de Travis Scott là, il va frapper fort et tout. Et quand j'ai écouté, j'ai vraiment, mec, j'ai cru que c'était une vanne.
Mais c'est la prod est plate. Les couplets des trois sont mais vraiment The Weeknd. Je crois que ça faisait des années que j'avais pas entendu un couplet de The Weeknd hors son album là pour sa série où je me dis, ouais, c'est nul. Ouais. Bah là, c'était vraiment très nul.
Ouais, c'était pas terrible, je suis d'accord. Et donc, du coup, pour avoir mon avis définitif, bah, je suis comme toi. C'est à dire que c'est pour moi un album en demi-teinte. Et y a une première partie d'album qui te met dans une ambiance de folie. Il a eu le mérite, ce disque et ce début d'album, de me faire découvrir un artiste très excitant, Tizo Touchdown, que je suis très impatient de voir parce qu'apparemment il prépare un petit album de 9 morceaux coproduit, coécrit avec Drake, si j'ai bien compris. En tout cas, Drake l'a pris sur son aile.
Le Lil Yachty.
Ce morceau Modern Jam, le moment où Tizo Touchdown arrive, je suis là genre wow, c'est
ce mec est fort. Il a aussi bien marqué sur le Tyler qui était sorti l'an dernier.
Oui, c'est genre, vrai.
Il a un petit truc qui te donne envie de suivre, tu vois.
Il a un truc très excitant, puis il y a des bons morceaux. Le morceau avec Beyoncé, je le trouve très bon, bien que je trouve qu'on dirait un peu une chute de l'album de Beyoncé lui-même, Renaissance. Mais globalement, après cet album, pour donner mon avis global, il est boursouflé. Je pense qu'il est. Non, mais il est boursouflé. C'est-à-dire que c'est.
Non, mais il y en a trop. Tu veux trop faire.
Il veut trop faire. C'est trop. J'ai un peu même l'impression que c'est un album qui malheureusement, il fait un peu un pas en arrière. On a l'impression qu'il revient trop dans l'influence Yeezus. Et je trouve qu'en 2023. C'est trop tard en fait.
C'est ce que je me suis dit. Il a fait son Donda.
Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que justement,
ouais.
Le morceau Modern Jam, je crois que je te l'avais envoyé à toi. Modern Jam, la prod de Guiman.
Ouais, c'est une prod de Yeezus.
C'est I Am a God. C'est une des versions démo originales du morceau I Am a God qui est sur Yeezus de Kanye West. Donc en fait, c'est vraiment même. On n'est même pas dans. C'est un peu une influence de Yeezus à fond. C'est littéralement, il arrive. pas à se sortir de sa tête. J'ai l'impression, Travis Scott, ça y est, il s'est... Même si la prod est géniale et que le morceau final Modern Jam est très très bien, mais je trouve que là, ça y est, on voit que Travis Scott, il commence à atteindre ses propres limites. Et je trouve que le morceau est... Et j'ai même envie de te dire, je trouve que Utopia, ça s'entend que c'est un album qui aurait dû sortir en 2019, voire 2020, puisque je trouve qu'en 2023, il est anachronique. Vraiment...
Je suis d'accord avec toi. Pour moi, en fait, je disais, c'est le Donda de Travis Scott.
Oui.
C'est cet album repoussé ad vitam aeternam, modulé, je pense, avec des sons qui ont dû être enlevés, remis, retravaillés, nanani. Et qu'en fait, bah, ça donne cette espèce de bouillasse. Moi, je dis pas bon soufflé, je dis bouillasse, où il y a un peu de tout, n'importe quoi. Des grandes choses, bah, comme dans Donda. À Donda, il y avait des dingueries. Mais quand tu regardes la globalité, t'es en mode... ouais, bah, cet album, je pense que dans 2 ans, on dira que c'était le flop de sa carrière, quoi.
Ouais,
et c'est dommage parce qu'il a voulu que ce soit le pinacle, je pense, dans sa tête.
Ouais, je pense qu'il s'est dit que je vais revenir en force et tout. Et je pense que tout ce qu'on a raconté avant, plus ce choix désastreux, hein, pour moi, il faut le dire, j'ai envie de le dire, ce choix désastreux de faire un album de 19 titres, 1h13, hein, faut redire, c'est catastrophique. Il serait revenu avec un album percutant, 9 morceaux, là, les 9 premiers morceaux, jusqu'à le morceau avec Beyoncé.
Et faites des albums courts. Regardez, c'est Olivia Rodrigo, son retour, 39 minutes, elle a dit.
Ah, mais ça aurait été banger.
Bonheur. Bonheur.
Mais là, t'aurais fait un morceau, tu prends les 9 premiers titres, et après, tu mets le dernier titre, là, avec James Blake et 21 Savage pour faire un album de 10 morceaux. Et c'est bon, ça part. L'album est beaucoup plus digeste.
Ouais.
En fait, c'est ça aussi, c'est le côté digeste. Quand je dis boursouflé, c'était ce truc-là où ça veut trop en faire. Et même nous, d'un moment, en fait. On n'écoute pas ça d'une traite, c'est impossible. Et ce qui est très marrant, c'est que je trouve que globalement, la critique a été un peu suivie, la sortie de ce disque. Je crois qu'il y a un journaliste rap qu'on a parlé sur Twitter, enfin X, vous l'appelez comme vous voulez, qui en a parlé en mode soit la critique a été assez gentille avec l'album, soit on n'a pas parlé du tout. Soit pour dire des banalités autour de ce disque en disant ouais, c'est un gros disque, c'est un blockbuster, machin. Mais c'est vrai qu'après, on n'en parle pas dans le fond, et je suis assez d'accord là-dessus. J'ai l'impression que les gens n'ont pas osé parler de cet album. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi, c'est l'impression que ça me fait, en fait, tu sais pas quoi en dire. La réalité, on arrive à en parler depuis 10 minutes, mais moi, la réalité, c'est qu'en fait, tu sais pas quoi en dire de ce disque.
Je pense que c'est dur aussi, après quelques semaines, je sais pas si on l'a bien digéré, ça se trouve, dans 6 mois, on dira que c'est le meilleur disque de sa carrière, mais j'ai un gros doute, tu vois.
Ouais.
Je pense que, sans avoir à digérer, tu te rends compte qu'il y a un trop-plein, et que même, il y a quand même des morceaux qui valent même pas la peine que tu les digères, tu vois. Le K-pop... j'ai envie de l'évacuer de ma vie, tu vois, j'ai envie de me dire, ça n'a jamais existé. Non, mais c'est... je parle pas de K-pop en général,
ouais.
À pas prendre en dehors du contexte, mais ouais, l'album est globalement soit noté de manière gentille par la critique, soit il est détruit.
Et on en parle, alors, et puis il y a des moves bizarres. Alors, il y a peut-être 2-3 prods qui ressortent avant qu'on nous tombe dessus, genre Lost Forever, il y a une bonne idée de prod, je crois que c'est Nina Simone qu'on entend au début. Je sais plus si c'est Nina Simone qu'on entend au début, il y a des bonnes idées, mais il y a des idées bizarres, genre Dave Chappelle, mec. C'est trop bizarre, le morceau.
Ouais, le morceau est pas bon. Puis même Yungling, enfin, les gars, Yungling en 2023. Genre, qui en a quelque chose à foutre? No offense, hein. Genre,
ouais, c'est trop étrange, quoi.
C'est un peu bizarre. Là où il était excitant sur Astroworld avec tous les gens du moment, ou même toute sa carrière, il a eu que des artistes qui étaient soit intéressants, soit qu'il arrivait à bien imbriquer. Bah là, je trouve que la liste d'invités, c'est reprendre ses habituels. Et refaire des trucs avec, quoi. Puis il ajoute 2-3 mecs du moment, genre Cizay ou genre Beyoncé pour le coup, pour marquer un petit peu, on va dire, sa petite run qu'elle a faite avec Renaissance, petite, grande run de Renaissance.
ouais.
Mais, c'est trop comme album. Ouais. C'est le moment où on prend la marge. Genre.
Mais la première partie, il y a des grands moments. Voilà, le moment, le morceau My Eyes avec Justin Vernon. C'est parfait. La bonne idée de God's Country, justement, de sampler un morceau de la bande originale de Rosemary Baby, qui est un film d'horreur, justement, en plus, encore
dans la même recette. Ouais.
Bon, Rosemary Baby qui est réalisé par un réalisateur criminel, mais bon,
une grosse merde, mais ça va.
Je préfère le préciser, hein, pour pas qu'on me crédite de quoi que ce soit. Mais
en tout cas, film violeur en cavale. Voilà,
encore une fois, dans cette idée de bande originale horrifique, on sent sa ligne directrice et c'est ok. Mais il y a des bonnes idées comme ça. James Blake encore, qui est des fois qui est vraiment très bon sur certaines prods, etc. Mais ça, globalement...
Le Playboy Cartier est incroyable. Mais,
Mais tu t'ennuies. De toute façon... Mais sur l'entièreté du truc, à un moment donné, il faut le dire, tu t'ennuies. Ça, tu t'ennuies.
Bah moi, première écoute, je me suis ennuyé. Et généralement, quand tu t'ennuies, quand tu découvres un album, c'est que c'est pas bon. Ouais. Genre, surtout quand c'est un album qui est censé être dense, à digérer, ou au moins tu peux te dire... Peut-être tu t'ennuies parce que tu comprends pas tout. Non, là, c'est juste de l'ennui, de platitude. De je ne suis pas surpris et j'ai même pas eu envie d'y revenir.
On est dur.
Plus que ça. Voilà. Là, on est dur, mais après, on en a dit que du bien avant de l'artiste.
Ouais, ouais, c'est sûr. Mais tu vois, c'est là où je sens que même nous, tu vois, on a. Je pense que c'était très bien de faire le podcast comme ça. On débriefe déjà. Mais tu vois, non, mais c'est intéressant parce que là, tu m'en as parlé de la carrière et tu sens que même nous, entre Astroworld et Utopia, avec tout ce qui s'est passé, je pense même de son point de vue personnel.
On a changé aussi, nous.
On a changé, nous, on a changé notre regard sur Travis Scott, mine de rien, et qui fait que j'avoue que Utopia en 2019, je l'attendais, en 2023, je l'attendais plus.
Moi, je vais te dire que c'est un peu c'est une saturation de toute la mystique autour de Travis Scott que je trouve finalement très marketée et bidon. No offense aux fans, hein, vous pouvez être dedans. Et moi, je trouve que c'est quand même, avec le recul, un artiste dont on a monté la mystique de toute pièce, qui finalement n'a rien de mystique. C'est juste un gars qui sort avec une des meufs les plus connues d'internet, de la télé de l'Amérique, qui est un phénomène marketing parce qu'il fait que des bons choix et qu'il doit être bien conseillé, et qui à un moment a été brillant dans la musique, mais qui aujourd'hui tourne en rond, quoi. Et oui, il vit un peu sur cette gloire, cette recette et ce truc qu'il a monté. Après, il y a des gens, ils peuvent vivre 20 ans comme ça.
Ouais,
et s'il y arrive, c'est cool. Mais j'espère que dans 20 ans, j'écouterai pas le 20e feat entre Travis Scott et Swae Lee, la 20e version de The Weeknd et Travis Scott qui font toujours le même morceau. Voilà, enfin, va falloir évoluer parce que le rap, ça va vite. Travis Scott, il fait partie des gens qui l'ont révolutionné, mais le cycle du rap va l'éclipser à force, quoi.
Ouais, c'est clair.
Comme il a éclipsé plein d'artistes, malheureusement.
Moi, je te le dis, Utopia a chaud. Aujourd'hui, donc on n'a même pas un mois d'écoute, mais bon, à chaud. Moi, c'est terrible, hein, mais je le mets avant-dernier. Moi, Utopia.
Ah, moi, je le mets dernier parce que l'album avec Quavo, je peux l'écouter et être diverti.
Ah ouais, t'es dur quand même. Ah, je trouve dur quand même. Parce que...
Je trouve que c'est plus réussi ce pari d'être diverti. Après, c'est vrai que bon, si tu l'analyses au niveau des prods, c'est moins intéressant, ce genre de choses, mais.
C'est ça, c'est parce que je trouve que. Je trouve que tellement Utopia a quand même une première partie exceptionnelle. En fait, ça fait le nombre de morceaux de la première partie d'Utopia, c'est autant de morceaux que le projet Quavo. Donc, en fait, je sais que je vais passer un bon moment.
C'est vrai, t'as raison.
En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, le Utopia aurait dû être un album de 9-10 morceaux et ciao. En fait, c'est ça, c'est qu'il a pas su s'arrêter. Et...
Malheureusement, le streaming oblige. Tu as envie de faire des écoutes, tu as envie d'avoir de l'espace, tu as envie de faire de l'argent, donc tu fais des morceaux. Mm. C'est la recette du rap depuis 10 ans. Sauf qu'à un moment, on en a marre. Mais ouais, si tu veux, on met avant-dernier, je n'y vois aucune objection.
Ok, ok. Du coup, là, le bilan de la discographie de Travis Scott, en dernière position, nous avons le projet Unshow Jack Unshow, donc le projet de Travis Scott et Quavo. Et ensuite, en gros, sur les 4 albums solo, on a Utopia en dernière position, on a Rodeo en 3e position. En 2e position, on va nous taper dessus Astroworld. Et en première position, on a mis Birds in the Trap, Sing My Night. Donc du coup, c'est l'album qu'on préfère, en fait, littéralement.
Ah, je m'attendais pas à ce qu'on arrive aussi facilement vers ce consensus, parce que je me suis dit, bon, il va forcer pour Astroworld.
Non.
Et en fait, pas du
non,
tout.
Non, non, non. En fait, je suis honnête, j'aurais mal préparé l'émission, j'aurais pas réécouté les albums, j'aurais forcé pour Astroworld, mais c'est parce que j'ai réécouté les albums que je suis plus... entre guillemets, je suis moins sympa avec Astroworld et plus sympa avec Birds in the Trap, tu vois, genre vraiment ça m'a vraiment redonné une perspective puis même avec, comme on le disait, avec l'histoire autour de Travis Scott, etc. Je prends beaucoup de distance avec le bonhomme aujourd'hui. Il m'intéresse moins aussi, il faut le dire, il y a aussi ça. Donc voilà, mais en tout cas, merci quand même à lui pour ce dernier disque et de m'avoir ouvert les yeux sur ce jeune artiste. Tizo Touchdown, que je vais suivre du coup de mon côté, ça c'est clair.
Ouais, puis merci à lui tout court pour tout ce qu'il a pu faire avant, parce que quand même, on le dit, je pense que jusqu'à Astroworld, il fait une run incroyable.
Ouais.
Avec très peu de sans faute, beaucoup de bon goût, des morceaux iconiques qui resteront. Et genre, autant que tu vois, à partir de maintenant, il va peut-être moins nous intéresser, nous, et on va peut-être être plus critique et sur la retenue à chaque fois. Mais bon, je regarderai toujours avec beaucoup de nostalgie, en tout cas, ces projets d'avant, et je vais pas arrêter de les écouter pour autant. Tu vois.
Du coup, écoute, super pour ce podcast soirée disco, pardon. non, mais c'est j'allais dire pour cette tier list, mais en fait c'est pas une tier list. Enfin bref, c'est plus un classement sur.
C'est une occasion de parler d'un artiste qu'on aime bien, voilà. Et de faire un petit classement marrant, quoi.
Voilà, c'est plus ça pour vous donner du contexte et pour vous appreniez la vie d'un artiste. En tout cas, vous, si ce podcast vous a plu et notre discussion vous a plu, n'hésitez pas évidemment à parler de ce podcast autour de vous, à le noter sur les différentes plateformes.
5 étoiles, s'il vous plaît.
5 étoiles. Et s'il y a un espace commentaire, je sais notamment que sur Apple Podcast, il y a un espace commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis sur cet épisode, votre album préféré à vous de Travis Scott. Et puis également à donner un petit nom sur un artiste dont vous aimeriez qu'on parle à l'avenir. On n'a pas sur les... Alors que je réexplique et que je redonne un contexte rapidement. Sur les précédents épisodes, en fait, on avait un système de vote à la fin. Là, on n'a pas eu le temps encore de reprendre des noms pour refaire un système de vote. Donc, je sais pas
j'avais,
sur.
J'avais une roue.
Faudra qu'on remette ça en place. Je sais pas encore de qui on va parler la prochaine fois. D'ailleurs, désolé pour les podcasts qu'on devait faire normalement initialement il y a un an et demi, mais on les fera pas. Je les ai dans un disque dur. Peut-être qu'un jour je les montrerai. Voilà. Peut-être qu'un jour je les montrerai. Je les mettrai en mode en épisode bonus. Bonus, peut-être.
On peut dire des artistes au pire. De toute manière, comme ça, peut-être qu'on les fera un jour.
Ouais, peut-être qu'on les fera.
Sia, Orelsan et.
C'était les deux qu'on avait fait. On a fait Orelsan et Sia. On avait deux épisodes, on avait fait Orelsan et Sia. Et Orelsan c'était un bon podcast. C'est Sia, j'avoue qu'en fait, j'avais été moins content, pour être hyper transparent, j'avais été moins content de notre analyse de Sia, surtout sur la deuxième partie de sa carrière, etc. Et je faudrait que je réécoute maintenant, je serais peut-être plus tendre, mais en tout cas, voilà. Bah écoute, j'ai tout dit de mon côté. J'espère que moi, ça m'a plu de te retrouver sur ce podcast.
Ça m'a fait grave plaisir aussi de prendre ce petit moment. Puis bon, là, en plus, on était dans l'actualité, c'était parfait. Histoire de faire un petit peu le bilan, quoi,
ouais.
De 10 ans de Travis Scott, quasiment.
C'est ça. Et si vous voulez soutenir le projet Flonflon plus généralement, moi, je suis sur Twitch, sous le nom twitch.tv/flonflon. Voilà, n'hésitez pas à venir sur les lives, je parle de musique, d'actualité culturelle le matin, etc. On fait des playlists, on fait plein de choses autour de la musique. Il y a aussi une chaîne YouTube, un TikTok, un Instagram. Je suis partout. Toi, Tinky, est-ce que tu as un truc à promouvoir, que tu veux mettre en avant, quel qu'il soit?
Ne me suivez pas sur Twitter parce que je pense que je ne vais plus y être actif. Mais si vous voulez, j'ai une playlist sur Spotify où je mets les nouveautés musicales de 2023 qui me passionne, tout cas les artistes que je vois émerger ou les têtes d'affiche qui font des trucs sympas. Ça s'appelle Spiral avec un S. Vous pourrez la retrouver comme ça sur Spotify.
On pourra mettre le lien en description de ce podcast si tu veux, comme ça au moins les gens retrouveront rapidement ce truc là et ça sera cool, quoi. Ça sera très bien. Et puis merci à vous, et n'hésitez pas, évidemment il y a un patreon.com/flonflon-musique, pardon, ou underscore musique, je sais plus, bref.
Un MacBook, s'il vous plaît.
N'hésitez pas, parce que si vous participez au Patreon, en fait, vous avez accès aux épisodes du podcast une semaine avant tout le monde, donc n'hésitez pas, voilà, et puis ça permet de soutenir ce projet, ça permet, voilà, d'upgrader, pourquoi pas, l'audio, les micros, tout ça, voilà, puis ça soutient, puisque c'est du contenu gratos qu'on vous fournit, donc voilà, et que nous, on n'est pas dans un système de publicité, etc. N'hésitez pas, voilà, à soutenir ce podcast. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Soirée Disco. Merci encore à toi, Tinky.
Merci à toi, salut.